Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Bonjour à tous, c'est parti pour du direct tout au long de l'après-midi. L'Intégral Sport, vous connaissez évidemment le rendez-vous de tous les directs sur RMC, qu'il s'agisse de rugby, de biathlon, de foot, de ski et de toutes les autres disciplines. Les autres disciplines, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants avec notre magazine olympique En route pour Paris 2024. On sera notamment avec Stéphane Houdet, qui est l'un des plus grands champions français de tennis fauteuil. Et c'est lui qui a convaincu Yannick Noah de devenir capitaine de l'équipe de olympique, de paralympique plus exactement, pour les Jeux. Et puis on sera également dans un instant avec Yann Schrub, qui lui est devenu champion d'Europe de cross la semaine dernière et qui rêve maintenant de participer aux Jeux Paris 2024. Les directs, eh bien, il y en a plusieurs cet après-midi, et à commencer par le rugby avec la deuxième journée de Champions Cup. Un match a déjà débuté, ça se passe au Cap en Afrique du Sud. Les Stormers affrontent La Rochelle qui n'a plus le droit de perdre après s'être incliné la semaine dernière à la maison face au Leinster. On suivra également un peu plus tard dans l'après-midi deux matchs de Ligue 2, notamment un très alléchant Bordeaux-Saint-Etienne. C'est une affiche d'avant, une affiche d'antan, une affiche de Ligue 1 transposé en Ligue 2. Et puis on suivra également Auxerre-Ajaccio. Voilà donc pour le programme de ce début d'après-midi, sans oublier le biathlon avec la poursuite homme à Lenzerheide qui débutera à 14h40. Le rugby avec le premier essai de la partie entre les Stormers et La Rochelle. Mathis Caron est avec nous. Salut Mathis.
Salut Christophe, bonjour à tous. Ça commence très très bien pour La Rochelle qui n'a pas vraiment le droit à l'erreur, tu l'as dit, avec un essai de Carbarlo. On n'est qu'à la 6ème minute de jeu et le demi de mêlée néo-zélandais inscrit déjà un essai, le premier de la partie. Les Rochelais avaient déjà inscrit une pénalité en tout début de rencontre à la 3ème minute sur une récupération très rapide de Skelton. Et ça commence vraiment très bien. Ils peuvent déjà prendre le devant, l'avantage face à des Stormers qui ont très mal débuté la partie. Beaucoup de ballons perdus, notamment sur les transmissions courtes. Les Rochelais sont très agressifs et ils vont pouvoir transformer déjà cet essai. Ça fait 8-0, donc 7ème minute de jeu ici au Cap.
Et ben voilà qui est bien parti pour les Rochelais. Julien Brugnot m'accompagne comme tous les samedis. Salut Julien.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bon, ouais, les Rochelais commencent très très bien. Ouais. Il en parlait justement, c'est vrai que défensivement parlant, ils posent beaucoup de problèmes aux Stormers. Ça récupère pas mal de ballons, notamment grâce à Bautia, grâce à leur gratteur comme Danty. Et puis là, on voit une touche à Anodine, hein, où il y a un peu ça cafouille en tout cas sur les 50 mètres, mais touche pour La Rochelle. Bourgaret, qu'est-ce qu'il décide? Eh bien tout droit en avant Guingamp, il arrive à gagner 4 duels quand même pour après servir juste un bras roulé pour Carbarlo qui va marquer l'essai. Bourgaret fait un gros début de match.
La transformation pour Antoine Astoy, est-ce que ça va passer Mathis?
Et ça passe, c'est réussi.
Ça fait donc 7-0 pour... non, 7, il y avait déjà 3 points. Ça fait 10-0 pour les Rochelais, le stade Rochelais qui débute en fanfare. Donc cette partie, on le rappelle, Julien, la semaine dernière, il y a eu une défaite à la maison qui venait mettre fin à une longue série d'invincibilité en Coupe européenne, en Champions Cup pour les Rochelais, battus par leur meilleur ennemi, à savoir le Leinster, qu'ils avaient battu en revanche à deux reprises en finale de Champions Cup. La semaine dernière, les Leinstermen ont pris leur revanche.
Alors, il y a une certaine logique, hein, le Leinster qui a repris un peu de plus belle le championnat, qui domine son championnat, qui est largement devant tout le monde. Et puis La Rochelle de son côté qui a du mal cette saison, hein, notamment à l'extérieur, qui a perdu une fois à domicile contre Castres. C'était deux équipes, deux ambiances différentes, et c'est vrai que La Rochelle, bah, ils n'ont pas démérité. Je pense que dans l'intensité, dans l'engagement, ils ont répondu présent. Je pense que dans l'utilisation du ballon, hein, ils ont fait quelques erreurs stratégiques. Ronan O'Gara en parlait, hein, il veut des joueurs responsables. Malheureusement, sur ce match, il y a eu quelques erreurs qui ont coûté cher. Ils prennent un point, donc dans cette compétition, ils sont pas morts, hein, il y a 4 matchs, il va falloir maintenant gagner les 3 prochains matchs.
Oui, c'est ça. Tu as le droit de temps en temps à une erreur, mais pas deux.
Bah, hein. Si tu veux te qualifier et faire bien figurer, il faut gagner les 3 prochains matchs.
Ouais, on rappelle que les clubs français n'ont pas tous très bien entamé la compétition, mis à part Toulouse, qui la semaine dernière
les Anglais,
a roulé.
Les Anglais nous ont fait beaucoup de mal, hein, Toulon qui perd à la dernière minute, le Racing qui se fait prendre à domicile pour le premier match contre l'Harlequins. C'est vrai que les Anglais ont été très bons dans ce début de compétition. Mais voilà, c'est un nouveau format. Il faut finir, il faut sortir des poules. Donc on a des équipes armées en tout cas, et un championnat qui arme ses équipes pour réussir.
Et malheureusement, ça s'est mal poursuivi également pour Toulon, battu également hier soir dans les dernières minutes du match à Northampton. Ils ont été battus 22-19 là à la qualif. Tu peux faire une croix, hein.
C'est mort, à moins qu'ils vivent le challenge, c'est-à-dire d'être rebifurqués en challenge. Il faut finir troisième, non.
Ouais, enfin, il y a quatre équipes qui... qui sont qualifiés.
Enfin, je suis perturbé avec le foot là. Ouais, je finir, c'est le cinquième qui bascule en.
Et puis Bayonne également a été battu hier soir à la maison à Jean Daugé d'un point par les Écossais.
C'est surprenant après leur performance en allant faire match nul au Munster. On attend Amiens en tout cas. Ils jouent vraiment à fond cette compétition.
Donc on attend aujourd'hui un réveil des clubs français et notamment de La Rochelle. On rappelle champion d'Europe en titre qui mène
double champion
10-0 sur la pelouse des Stormers. On suivra également le match entre l'UBB et Bristol. L'UBB qui a bien entamé sa saison de Champions Cup la semaine dernière en s'imposant largement. Le Loup sera opposé au Bulls. Là aussi c'est une équipe sud-africaine. Et puis le Racing est en déplacement en Irlande tout à l'heure à 21h face à la province de l'Ulster. Et puis deux matchs nous intéresseront demain avec un très alléchant Harlequins-Toulouse suivi de Stade Français Leicester. Voilà pour le programme rugby de ce week-end. Donc en Champions Cup, c'est le deuxième week-end consécutif. Ensuite, on va revenir au top 14. Un petit mot sur le match avec toi, Mathis Caron.
Oui, ça se passe toujours bien pour les Rochelais qui ont la balle. Ils sont environ au milieu de terrain et on sent que ça joue beaucoup mieux, qu'ils sont beaucoup plus sereins que contre le Leinster. Il faut dire aussi que les conditions de jeu sont vraiment très différentes. Elles sont même diamétralement opposées. Aujourd'hui, il fait plutôt beau, cap une vingtaine de degrés, un temps très sec, alors que contre le Leinster, ça avait causé souci au Rochelais. Cette pluie, ces ballons mouillés, ça a empêché les transmissions longues. Et aujourd'hui, on les sent beaucoup plus à l'aise. L'entraîneur Roran O'Gara l'avait précisé, c'est le genre de climat que son équipe apprécie. Et on sent aujourd'hui que ça joue sur la rencontre déjà avec ce score assez lourd après 10 minutes de jeu. 10-0 pour la Rochelle. Le ballon a été récupéré sur une touche par les Sud-Africains.
Ouais. C'est vrai que les Rochelais, on les sent fringants, hein, parce qu'il y a quand même le vol. Enfin, ils sont partis tôt dans la semaine. Mais c'est vrai que Ronan avait dit cette phrase après la défaite contre Leinster, c'est que c'est une équipe qui préfère jouer qu'un ballon sec. Alors, ça fait peur à certains supporters de la Rochelle, parce qu'à la Rochelle, il fait pas que des temps sans pluie.
La semaine dernière,
et puis le championnat de France, c'est un beau pays, mais il pleut quand même quelques fois, donc.
Ça doit être sympa aussi, en plein hiver, comme ça, avec des terrains bien gras, de la pluie incessante qui tombe, parce que sur la côte atlantique, ça n'a pas arrêté de pleuvoir ces derniers temps.
Ah, oui,
d'aller là-bas en Afrique du Sud où c'est le début de l'été, c'est magnifique.
C'est un peu une fête aussi hein, quand on est joueur de rugby, qu'on n'est pas international, qu'on n'a pas la chance d'être international,
de partir jouer là-bas. Fatigue d'aller loin, en Afrique c'est... du Sud, mais regarde, tu rencontres des conditions incroyables.
Il y a cet âge-là, ils récupèrent vite.
Mais oui, ils sont solides, ils sont costauds, nos rugbyman. Très bien, toujours 10-0 donc pour La Rochelle qui mène sur la pelouse des Stormers. Ça se passe au Cap en Afrique du Sud. 14h13 sur RMC, et c'est l'heure d'ouvrir notre magazine olympique en route pour Paris 2024.
RMC, en route pour Paris 2024.
Avec une semaine importante et riche en actualités, on y reviendra dans quelques minutes avec Morgan Maury. On s'entretiendra tout à l'heure avec Stéphane Houdet, qui est l'un des joueurs de tennis fauteuil les plus performants de l'histoire. C'est lui qui a convaincu Yannick Noah de s'asseoir à nouveau sur la chaise de capitaine d'une équipe de France de tennis. Ce sera donc pour les Paralympiques. Il sera avec nous dans quelques instants. Mais nous allons nous intéressé à un autre sport et à un autre garçon qui rêve de nous faire rêver et nous faire frissonner dans 7 mois, surtout de se faire frissonner lui. Yann Schrub, c'est son nom. Vous ne le connaissez peut-être pas encore et pourtant il a réalisé le week-end dernier un exploit incroyable en devenant le premier athlète français à remporter le championnat d'Europe de cross qui se déroulait en Belgique. Pas avec une moto, de cross-country. Et c'est peut-être qu'un début pour ce garçon qui rêve maintenant de gloire olympique. Yann qui est avec nous dans notre magazine. Salut Yann.
Bonjour, ça va bien?
Eh ben ouais, bien. Ben nous on va très très bien et on est surtout, on a surtout vu que toi aussi t'étais très très bien la semaine dernière avec en plus ce tour d'honneur avec un magnifique bonnet en forme de coq sur la tête. Tu l'as trouvé où ce bonnet là?
Ouais, c'était une petite idée de mon petit fan club, on va dire, parce qu'ils sont souvent maintenant 40-50 à se déplacer. La première fois, c'était l'année dernière à Munich, quand je fais ma première médaille où juste il y a un copain qui me jette le coq. Et c'était sur un coup de tête, sur l'instinct que j'ai mis sur la tête. Et puis depuis, quand je réussis mes courses, il me le jette à chaque fois. Donc j'essaye de le remettre parce que ça fait un petit peu partie de moi maintenant. C'est un petit peu ma signature, on va dire.
Ouais, c'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les matchs de rugby, les matchs du 15 de France. Tout le monde a le coq le bonnet en forme de coq. Et donc, je pense qu'ils l'ont piqué là ou ils l'ont récupéré. En tout cas, ça te va très bien. Ça te sied à merveille. Yann, c'est quand même incroyable que ce soit la première fois qu'un athlète français réussisse à remporter le championnat d'Europe. Bon, ça n'existe pas depuis la nuit des temps. Je crois que c'est 1994. Mais en tous les cas, on peut dire que tu es un pionnier en matière de cross en France.
Ouais, ben c'est vrai que le cross, en fait, il y a une particularité, c'est que c'est pratiqué par beaucoup de jeunes. Donc depuis toujours, les coureurs ou du moins les collégiens, lycéens en pratique. Et puis après, la belle particularité, c'est que c'est une course d'homme à homme, dans la boue, dans la pluie, dans le froid. Il n'y a pas de chrono. Et puis surtout, ça regroupe beaucoup de catégories. Ça peut regrouper des coureurs de 1500 mètres, de 5000 mètres, de 10 000 mètres, voire de marathon. Donc c'est un peu la discipline hivernale où tout le monde se rejoint. Et puis c'est toujours une belle fête parce que il y a beaucoup de public, c'est dans la nature, il y a des risques de chute, il y a des risques il y a une incertitude dans la course qui fait que c'est beaucoup plus beau, et c'est pour ça que moi j'adore ce sport. Ouais. Et d'autant plus que maintenant effectivement j'espère que je vais ouvrir la voie pour d'autres Français pour des prochains titres dans les saisons à venir, du moins.
Ouais, c'est vrai que le cross, tu le disais, ceux qui sont un jour allés à l'UNSS connaissent tous ça, hein, parce que c'est une des disciplines phares à l'UNSS, et c'est trop sympa d'aller courir à l'automne comme ça dans les sous-bois, les pieds dans la gadoue. C'est une discipline magnifique, assez peu médiatisée finalement, et tu as raison, il faut essayer de mettre le projecteur sur cette discipline. Et tu l'as découvert comme ça quand tu étais petit, toi aussi, quand tu étais au lycée, ouais, ou au collège.
Ouais, exactement. En fait, je suis même retourné voir les académiques, donc c'est un peu les régionaux de cross UNSS, deux jours après mon titre, donc mercredi.
Ah ouais, t'as peut-être croisé ma fille qui les faisait.
Ah bah parfait. Et c'est vrai qu'on voit, il y a des gymnastes, il y a des footballeurs, il y a des athlètes forcément. Il y a plein de sports qui se rejoignent sur le cross-country pour remplir l'équipe, pour compléter l'équipe, pour être entre potes, pour manger à midi tous ensemble ou le soir après la course. Donc c'est vraiment une discipline qui est vraiment importante pour moi, et comme effectivement vous l'aviez dit, c'est pas du tout médiatisé malheureusement, et je pense que les jeunes en fait ne s'identifient à personne parce qu'ils voient jamais personne faire des médailles ou réussir dans ce sport. Donc pour eux c'est un sport qui peut-être n'existe même pas au haut niveau, et donc je trouve ça assez triste parce que finalement il y a quand même des gens qui sont très forts, qui vont aux Jeux Olympiques et en pratiquent. Donc effectivement je pense qu'il faudrait vraiment mettre beaucoup dans le cross, mais dans beaucoup d'autres sports en général, pour que les jeunes puissent s'identifier à des personnages qui réussissent. Ouais.
Le problème du cross, c'est que ça se déroule pas au sein des compétitions, des grandes compétitions comme les championnats d'Europe, comme les championnats du monde, même les Jeux Olympiques. C'est pas une discipline olympique. C'est en ça que ça pâtit finalement, et que c'est assez peu médiatisé. Si tu avais une épreuve de cross aux Jeux Olympiques l'été prochain, bon, il faudrait un peu arroser les sous-bois de la région parisienne, mais on peut faire du cross sans qu'il y ait de la pluie, sans qu'il y ait des feuilles mortes par terre. J'imagine que oui, quand même, Yann.
Oui, bien sûr. Alors après, ils ont parlé de potentiellement mettre le cross aux Jeux Olympiques d'hiver. Qui peut être une belle idée. Après, il faut qu'effectivement l'idée parte de quelque part, et je pense que maintenant, ça commence à prendre un peu d'ampleur quand même. Depuis, effectivement, vous l'aviez dit, depuis 94 et les championnats d'Europe de cross qui ont lieu. D'ailleurs, c'est la première année que le champion olympique Jacob Ingebrigtsen ne s'est pas présenté, parce que lui aussi apporte beaucoup d'importance à cette discipline. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et c'est vrai que même au niveau de la télé, c'est peut-être même plus visuel que le 10 000 mètres ou le 5 000 mètres dans un stade. Ouais.
Et on a vu par exemple qu'en matière de cyclisme, le cyclo-cross était en train de prendre une importance considérable, parce que certains grands champions de cyclisme se sont dirigés vers cette discipline. Tu vois, des Van Der Poel, des Van Aert, qui sont vraiment des cadors de la route et qui font la saison de cyclo-cross. Et aujourd'hui, c'est une discipline qui est très suivie, notamment dans les pays comme la Belgique, les Pays-Bas. Et même en France, et peut-être le destin peut être le même pour le cross à pied. Alors, on va maintenant parler d'une autre discipline, parce qu'on l'a expliqué, il n'y aura pas de cross au jeu. L'autre discipline que tu pratiques, c'est le 10 000 mètres, et plutôt avec succès. Tu le disais tout à l'heure, en 2022, tu as pris la médaille de bronze, c'était lors des championnats d'Europe à Munich, et puis l'été dernier, la 9e place aux mondiaux, devancée notamment par 7 coureurs africains qui dominent, c'est vrai, de la tête et des épaules la discipline. Est-ce que c'est pas un peu désespérant, un peu frustrant, ça, finalement? Tu te dis, si j'étais né sur les hauts plateaux africains, ça irait encore mieux, hein.
En fait, frustrant, non, parce qu'on essaie toujours de s'améliorer, et c'est vrai que, déjà, comme vous le dites, là-bas, tous les Africains se sont déjà essayés à la course à pied, parce que ils ont pas grand chose d'autre, et donc, du coup, la sélection est beaucoup plus grande là-bas. C'est vrai que pour eux, c'est un peu le métier par excellence d'être coureur professionnel. Et on a beaucoup, beaucoup à faire à eux parce que, ben, aussi en Europe ou du moins en France, on n'est pas dans une société qui vit le sport où, moi, par exemple, ça fait que un an que je suis professionnel parce que j'ai les études à côté et parce que c'est, on n'est pas dans des sports vraiment professionnalisés encore. Donc, malheureusement, quand ça fait que depuis un an, c'est un peu encore dur de rivaliser, mais j'ai envie de montrer à tout le monde que voilà, c'est possible de malgré tout essayer de les titiller un maximum. Et c'est vrai que cette 9e place montre quand même que bon, j'étais pas si loin que ça. Malgré tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau de l'entraînement, mais voilà, moi je pense que dans l'avenir il y a des Européens, il y a des Français qui vont réaliser. Jacob Ingebrigtsen nous a montré le chemin en étant champion olympique du 5000 mètres, et donc je pense qu'à l'avenir il faudra s'inspirer des meilleurs Européens pour rivaliser face aux meilleurs Africains.
Yann, souvent il flotte un parfum un peu de soupçon de dopage sur certains Kenyans. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont répétées depuis des années. Est-ce que tu as l'impression quand même de te battre avec les mêmes armes que certains garçons qui te devancent régulièrement dans les grandes compétitions internationales?
Si je devais être honnête, non, je vais quand même pas me cacher de le dire, mais par contre, il faut pas y penser. Il faut penser à soi, avant tout courir pour soi, on s'entraîne à l'entraînement, on sait ce qu'on vaut, on sait qu'on peut rivaliser au maximum. Bien sûr, les meilleurs, sont très costauds, mais en tout cas, si on commence à penser à ça, on s'arrête très vite de courir parce que ça peut être très vite dégoûtant pour les athlètes qui se donnent tous les jours ou qui font des sacrifices. Donc moi j'y pense pas trop. Moi je pense à moi, je pense à mes coachs, je pense à tout mon staff, tout mon fan club entre guillemets. Et le but c'est de se procurer un maximum de plaisir et de donner au plaisir aux gens. Le reste, bon, ça m'importe peu pour le moment, même si forcément c'est un peu frustrant.
9e aux Mondiaux, est-ce que une médaille est envisageable? Déjà, tu es qualifié pour les Jeux Olympiques ou alors il manque?
Alors, comment ça se passe? Je suis qualifiable par la World Athletics parce que j'ai rempli les critères de sélection en passant par un système de cross. Donc moi, ça veut dire que la décision va être à la Fédération Française d'Athlétisme de me prendre ou non. A priori, ça devrait être pas mal.
Ouais.
Mais bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri d'une contre-performance cet été. Le sport, ça reste très éphémère quand même. Et il faut rester humble parce qu'on peut très vite se blesser et se retrouver sur la touche. Donc pour le moment, oui, mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. En tout cas, je me prépare vraiment à fond pour cette échéance qui sera vraiment un but ultime cette saison, de réussir dans un stade de France comblé de Français et de fans d'athlétisme.
Ouais. Voilà, avec plein de gens avec des bonnets en forme de coq.
Exactement, ils vont tous les filets.
Ouais. Ça va être génial, ça va être très sympa. Yann, un dernier mot avant de se quitter. Tu es non seulement un athlète modèle, mais également un étudiant modèle. Tu es en médecine, je crois. Encore une année de médecine, c'est ça, avant d'être diplômé. C'est marrant parce que j'étais avec Margot Chevrier à ce même micro il y a quelques temps, qui fait partie aussi de l'équipe de France d'athlétisme. Et qui elle aussi est étudiante en médecine. Donc voilà, on a plein de futurs toubib chez les athlètes. Là, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins en ce moment. Donc on va te souhaiter de bien réussir ta carrière
merci
de sportif
beaucoup,
et puis ensuite d'aller exercer ton métier. Merci Yann.
C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et puis vive le sport.
Hein. Et vive le sport, vive le 10 000, vive le cross merci. Surtout. Allez voir les épreuves de cross, allez voir vos gamins se démener dans la boue. C'est un tel bonheur, c'est un magnifique spectacle. Merci Yann.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée, à bientôt. Yann, donc, qui est champion d'Europe de cross et 9e mondial sur 10 000 mètres. Il avait même obtenu une médaille de bronze au championnat d'Europe l'année dernière. 14h24 sur RMC. Mathis Caron, où en est-on de La Rochelle Stormers?
Ça fait toujours 10-0, Christophe. On est à la 21e minute de jeu. Match toujours dominé par les Rochellois qui partent vers l'embu. Et c'est contré finalement par les Stormers. On est vraiment dans les 10 derniers mètres. Les Rochelais qui s'approchent. Il faut savoir que les Stormers n'ont toujours pas mis un seul pied, eux, dans le camp Rochelais, dans les 22 mètres Rochelais. Toujours une grosse domination des Rochelais.
Voilà, ça joue bien du côté de La Rochelle, hein, Julien. Ça joue pas mal. Toujours cet avantage net pour l'instant de 10-0.
Ouais, pour l'instant, ils sont dans le tempo. C'est vrai que les joueurs de Stormers n'ont pas encore trouvé la clé. Mais bon, j'ai l'impression que c'est plutôt monsieur l'arbitre, hein, Christopher Ridley, qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Parce que dans les rucks, il y a une guerre des rucks qui est omniprésente. Et c'est vrai que monsieur Ridley intervient beaucoup, donc, aux équipes de faire attention.
Allez, 14h25, vous êtes sur RMC, notre magazine en route pour Paris 2024 continue dans un instant avec notre deuxième invité, Stéphane Oudet, une légende du tennis fauteuil qui a convaincu une autre légende du tennis, tout simplement de venir le coacher lors des prochains Jeux. Stéphane Oudet va nous expliquer comment il a réussi à convaincre Yannick Noah. À tout de suite.
RMC, Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
14h29, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport. Avant de continuer notre page olympique et paralympique, un tout petit détour par le Cap en Afrique du Sud. Les Stormers reçoivent La Rochelle. Mathis Caron, est-ce que le score est toujours le même, toujours en faveur de La Rochelle?
Toujours 10-0 pour La Rochelle, Christophe. À noter quand même que les Stormers sont dans les 22 mètres des Maritimes. Une petite percée des Stormers qui se montrent un peu offensivement. Astoy a manqué son dégagement. Et ils ont récupéré la balle à l'instant. C'est la 25e minute de jeu ici au Cap.
Très bien, tout à l'heure, nous continuons à ouvrir les pages de notre magazine olympique en route pour Paris 2024. Et on va changer de discipline, on va même changer de compétition puisqu'on va maintenant évoquer les Paralympiques qui suivront les Jeux Olympiques et qui débuteront le 28 août, soit 12 jours après la fin des Jeux. Alors, vous avez peut-être vu passer cette info cette semaine, elle concerne l'une des plus grandes stars du sport français, un certain Yannick Noah, qui après les équipes de Coupe Davis et de Fed Cup, a accepté de devenir le capitaine de l'équipe de France de tennis fauteuil à l'occasion de ces Jeux. Une sacrée prise de guerre pour la discipline, mais également un formidable coup de projecteur. Et tout cela, eh bien, on le doit à Stéphane Oudet qui est avec nous dans le magazine olympique. Bonjour Stéphane.
Bonjour Christophe.
Je disais de Yannick, il est une légende du tennis français, mais à regarder les palmarès et les comparer, il est loin finalement, très loin du tien. J'en donne quelques grandes lignes quand même pour nos éditeurs. 5 médailles paralympiques, dont 3 titres en 4 Jeux disputés, 4 victoires individuelles en Grand Chelem, dont 2 Roland-Garros, sans compter les titres en double. Là, on est à 20 titres du Grand Chelem. Jamais un tennisman valide n'a pu s'approcher du quart de ton palmarès. Bref, à côté, Yannick, c'est de la gnognotte finalement. Hein.
Alors que chez les Français, hein, parce que Rafa, Novak,
Nelson,
Serena.
Oui, mais c'est ça. Tu es l'équivalent en français des Djoko, des Nadal, des Federer, quoi.
Ouais, alors j'aime bien relativiser quand même, parce que comme on est moins nombreux à pratiquer la discipline, je me bats pas avec le monde entier, comme Yannick s'est certainement battu. Et donc je respecte la légende qu'il est, je suis loin derrière tout ça.
Bon, Stéphane, je le disais, cette histoire est un peu folle, celle de voir Yannick, capitaine de l'équipe de France de tennis fauteuil, donc ton capitaine, puisque tu participeras une nouvelle fois aux compétitions. On te la doit, cette idée. Raconte-nous un peu la genèse de cette histoire. Comment es-tu parvenu à convaincre Yann? Est-ce que tu es allé au Cameroun dans son village, dont il est le chef, pour le convaincre? Comment ça s'est passé? Raconte-nous.
Ben non, mais en fait, c'est exactement ça. C'est le bon mot. C'était une idée folle. Une idée folle. Je crois que j'étais en train d'écouter une de ses chansons. Et puis, comme j'aime beaucoup Angela et la connotation historique où il parle d'Angela Davis, il parle de Martin Luther King, il parle de Bobby Kennedy. Et finalement, de toutes ces légendes. Et je me suis dit, avant les Jeux de Tokyo, hein, c'est une histoire qui date, qui a plus de 3 ans, à un moment où je rêvais d'avoir un capitaine de cette envergure au bord du terrain. Je lui ai écrit sur WhatsApp et je lui ai dit, écoute, je viens d'avoir une idée folle, il faut absolument que je te la partage. Et si tu venais avec nous à Tokyo, t'as tout gagné. Effectivement, la Fed Cup, la Coupe Davis de l'époque, et puis aussi avec le Paris Saint-Germain. Mais si on change de dimension, et c'est ce que je lis et ce que j'écoute dans tes chansons, passons à une dimension historique, celle des humains. Toi, tu parles souvent d'Arthur Ashe, tu racontes le parcours du Camerounais qui vient jouer dans cet univers où finalement ils sont très peu nombreux à être des joueurs de couleur. Et je pense que la dimension historique, elle pouvait être marquée avec l'engagement de notre légende du tennis français avec des athlètes paralympiques. Et ça a résonné. Yannick m'a répondu tout de suite. Alors lui, il aime bien les vocaux plutôt que les textes, que les SMS. Et il m'a dit, oh Stéphane, tu m'as tué, je kiffe trop.
Ah, tu as touché j'adorerais. La corde sensible de Yannick, là. Bravo.
Ouais. Et bon, c'était une bouteille à la mer, hein. Je savais même pas s'il allait me répondre.
Mais vous connaissiez, Stéphane, vous connaissiez
on
bien.
Je connaissais parce que forcément, faites le mur, Roland Garros, le tennis. Mais en même temps, on n'allait pas en vacances ensemble. Donc, Je crois que j'ai écrit, d'ailleurs j'ai relu parce qu'on m'a posé la question 10 fois ces 2 derniers jours, mais j'ai écrit quelque chose où tout le monde me dit que c'est impossible. Alors entre toi et moi, je tente le coup, il faut que ça se fasse, et tu sais très bien toi que si c'est impossible, tu le feras. Et c'est cet homme de défi que je suis allé chercher, que j'ai trouvé et qui a répondu positivement.
Génial, super idée. Et puis voilà, savoir toucher la corde sensible de quelqu'un. Et on sait que il a l'émotion à fleur de peau, évidemment, Yannick, depuis toutes ces années qu'on le connaît et qui nous a fait vibrer. Et donc arriver à le convaincre, c'est magnifique. Alors c'est une magnifique idée, notamment en termes de médiatisation, parce qu'évidemment ça va braquer les projecteurs du monde entier et les caméras du monde entier vers ta discipline. Est-ce que c'est uniquement dans ce cadre-là que tu es venu le chercher, le coup de com', le coup de médiatisation, ou est-ce que il va aussi vous amener sa patte? On sait que c'est un formidable meneur d'hommes, hein. Il a pu rentrer dans la tête des joueurs qu'il coachait, notamment dans les rencontres de Coupe Davis. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez lui? Parce que c'est pas l'expertise de sa discipline, même si vous jouez avec des raquettes et des balles comme au tennis debout. Mais enfin, c'est pas la même chose. J'imagine que là, il va falloir garder les entraîneurs habituels.
Alors on sait très bien qu'au tennis, ça se joue beaucoup entre les deux oreilles et à quelques points. On sait aussi qu'avec les joueurs qui vont aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques, on n'est pas du tout en train de travailler la technique en dernière minute. Là, on a 8 mois de l'épreuve. En revanche, analyser ce qui est en train de se passer dans la tête, jouer à la fois avec les individualités, parce qu'il y a une partie individuelle, on joue le tournoi en simple, mais il y a aussi une partie collective puisqu'on joue le tournoi en double et en équipe de France. Ça veut dire que il y a ce travail à faire aussi de cohésion, de retrouver les deux bonnes paires, puisqu'il y aura 4 joueurs français qui seront qualifiés pour le tableau masculin pour les Jeux. Donc la première idée que j'avais, c'est celle que j'avais vécue quand j'étais plus jeune, avec des profs de gym hyper dynamiques, qui n'étaient pas des experts de tous les sports, mais qui savaient aller chercher dans leurs élèves le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils soient bons. Bah, tout à l'heure tu parlais de cross, et ben qu'ils soient bons au cross, mais qu'ils soient bons au volley, qu'ils soient bons au handball, et en tout cas qu'on fasse pour le jour de la compétition en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est ce que j'imagine chez Yannick. Et après il y a tout ce détachement, il devient chef de son village, il est engagé, les paroles de ses chansons sont engagées, on n'est plus dans uniquement Saga Africa et c'est la fête. Et je me suis dit, effectivement, dans mon sport où je cherche depuis très longtemps à mélanger, que on est dans les vestiaires, hein, avec les grands noms du tennis que vous connaissez, mais on est sur les courts voisins. C'est pas la même discipline, et c'est vrai qu'un éclairage sur le fait qu'on puisse faire ces choses-là ensemble, c'était important pour moi, c'est important pour notre sport, et je pense que Yannick le représentait bien. Moi j'ai voulu faire des exhibits contre Rafa, contre Novak, ouais. contre Roger, et là les Jeux à la maison, c'était une opportunité incroyable et il fallait la saisir. Après, sur l'histoire de la communication, évidemment, et moi je pense que le sport est un vecteur de communication depuis 338 avant Jésus-Christ, les premiers jeux où il y avait des serments et les jeux étaient interdits de regarder pour les femmes, interdits si on était un esclave ou, comme il disait, un métèque. Donc l'histoire du sport nous a amené vers une grande société plus inclusive, et c'est ce que je veux dans ce partage. Et enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais, et je pense que c'est ce que Yannick peut nous apporter, pas qu'à nous, et effectivement au monde entier. Donc il y a une partie sportive, mais je crois que la partie la plus importante, elle sera humaine, politique, internationale.
Et en même temps, tu vas te faire un petit kiff quand même, Stéphane. Tu vas avoir comme Forgé avant toi, comme Lecomte, comme Tsonga. Tu vas avoir Yannick à côté de toi entre deux jeux. Et ça, c'est un kiff génial quand on est tennisman. Alors, comme tu l'es depuis toujours, quoi, non?
C'est extraordinaire. Et en même temps, finalement, nous, ça fait 3 ans qu'on en parle. Yannick est venu à un premier stage, puis un deuxième. Et j'ai appris il y a 2 jours que le président avait entériné ce choix et qu'ils annonçaient officiellement qu'il serait le capitaine. Mais je ne le savais pas. Donc c'est un journaliste de la Fédé qui est venu et qui m'a dit: est-ce que tu peux réagir à ça? Mais je dis: mais je savais pas, c'est extraordinaire, c'est bon.
Ils m'ont fait la surprise.
Vous le faites vraiment, ils m'ont fait la surprise. Et donc maintenant, exactement comme tu le dis, il va falloir aussi que je sache comprendre que ce qui vient de se passer, c'est pas une victoire. qu'il reste tout à faire sur le plan sportif, parce que sinon je vais faire juste mon kiff avec les potes, on va se faire notre kiff et puis on va peut-être en oublier la partie sportive. Alors c'est vrai que comme je suis pas le plus jeune, c'est pas forcément le plus grave, mais c'est vrai que c'est un kiff qui est énorme. Et ça a commencé quand Yannick nous parle, et j'aime bien son côté où je parle tout bas pour que vous m'écoutiez plus, et ça va être magique, et je mesure à quel point ça va être magique aussi, parce que mon téléphone a presque plus sonné depuis l'annonce que quand j'ai gagné mon premier match.
Tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais bon, en tout cas, l'histoire est magnifique et bravo Stéphane, bravo d'avoir réussi à le convaincre. Et maintenant, on sera encore plus derrière vous lors des Jeux Paralympiques, parce que alors là, tu vas voir débarquer des micros, des caméras de toutes sortes. Là, ça va être aussi un coup de com magnifique. Mais évidemment, on a compris que c'était pas l'essentiel. Merci Stéphane Houdet d'être venu dans l'intégrale sport pour parler de ce tournoi de tennis fauteuil de cette équipe de France qui sera donc dirigée par Captain Noah, 14h39 sur RMC. Un tout petit point sur le rugby. Mathis Caron, les Stormers face à La Rochelle.
C'est la 33e minute de jeu, Christophe, toujours 10-0 pour La Rochelle. Les Maritimes ne sont toujours pas vraiment en danger malgré cette petite frayeur sur une percée en solitaire d'un Sud-Africain il y a quelques minutes. Mais Botia a sauvé La Rochelle sur un très gros plaquage. Mais attention, les Rochelais concèdent de plus en plus de pénalités. C'est assez agressif entre les deux équipes. Les Maritimes se sont un peu manqués sur certaines touches également qui auraient pu être intéressantes pour se créer des occasions. Et on sait que c'est un secteur qui leur avait posé problème déjà face au Leinster.
Ouais. Ils sont en train de redescendre, c'est vrai qu'ils ont fait un très bon début de match, hein. On l'a vu, bon, il y a eu ce TCR, même s'il n'est pas construit, ils ont juste exploité une opportunité, mais c'est vrai qu'on sent que petit à petit, ils redonnent de la confiance à ces Stormers, qui sans faire grand chose, hein, et qui a juste beaucoup d'intensité dans ce qu'ils essayent d'entreprendre, avec un jeu assez direct. Mais voilà, pour l'instant, les Rochelais peuvent se reposer que sur une chose, c'est sur cette défense agressive, et c'est quelques soldats, hein, à l'image de Botia ou de Danty, qui récupèrent des ballons, qui posent problème, mais ça suffira peut-être pas, en tout cas, pour aller s'imposer là-bas.
Ok, 14h40, on continue notre magazine En route pour Paris 2024. Morgane Maury nous a rejoint. Salut Morgane.
Bonjour à tous.
Pour nous donner toutes les infos de la semaine, on va commencer par l'équipe de France de hand féminine, qui est donc en finale des mondiaux. Les Bleus qui se sont qualifiés hier pour la finale, succès 38-27 contre la Suède, et la finale aura lieu demain à 19h contre la Norvège, l'ennemi de toujours en quelque sorte.
Ouais, 7e finale mondiale pour l'équipe de France, coachée par Olivier Crumbles à Herning, au Danemark. L'envoyé spécial de RMC Arnaud Valadon. Arnaud, les Françaises vont défier leurs meilleures ennemies norvégiennes demain.
Et rebelote comme en 2021, c'est la même affiche. La Norvège considérée comme la bête noire des Françaises, sauf que il y a une semaine, en phase de poule, ce sont bien les Bleus qui ont battu les Norvégiennes à domicile 24-23, vainquant peut-être le signe indien. Depuis, les deux équipes s'étaient aussi retrouvées en finale 2017 d'un mondial remporté par la France. Depuis, ces deux équipes ont migré vers le Danemark où aura lieu la finale demain. Un avant-goût aussi, quelque part, de potentielles retrouvailles olympiques, même si demain c'est avant tout la troisième étoile sur le maillot pour l'équipe de France, qui est comme l'objectif, et non une médaille d'or des Jeux de Paris 2024. C'est l'avis de la capitaine Estelle Nzeminko.
Je ressens pas du tout ce ton dans sa façon de s'adresser à nous, dans sa façon de communiquer. Alors soit c'est une stratégie et il cache très bien le ressent ou ce qu'il a envie de dire et qu'il fait attention à l'expression par rapport à ça. Mais je pense surtout qu'il est en paix, en fait, qu'il est en paix et qu'il est dans l'instant présent.
Bartoli Time spécial demain, Christophe, à 19h. Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli, Arnaud Valadon au commentaire de cette finale France-Norvège, début 19h. Et il n'y a pas de coupure, on ne change pas de chaîne, on a le match en intégralité sur RMC.
En intégralité sur RMC avec Arnaud Valadon et avec notre consultante. On va se régaler, mais vous savez que vous suivez ces championnats du monde depuis le début sur RMC, hein, tous les matchs. Alors, Kevin Mayer, lui, aurait dû être en Australie ce week-end, Morgane, pour tenter les minima olympiques en décathlon. Malheureusement, le recordman du monde va devoir encore passer un peu pour tenter de se qualifier pour les Jeux.
Oui, toujours pas de billet validé pour les Jeux Olympiques pour Kevin Mayer. Ce week-end, il aurait dû s'aligner au décathlon de Brisbane en Australie. Deux problèmes, ses perches sont restées bloquées à l'escale, et un deuxième plus grave, c'est sa hanche qui lui pose problème. Alors cap sur San Diego en Californie au printemps, décathlon le week-end du 21 mars. Objectif 8460 points. Mayer doit réaliser ce score avant le 30 juin 2024, date limite des qualifications olympiques.
On regarde Paris 2024 approche et les formations ont commencé. Les policiers, notamment, seront plusieurs milliers à sécuriser les Jeux Olympiques. Ils sont retournés sur les bancs de l'école pour progresser en anglais.
Et oui,
My Taylor is rich. I repeat.
My policeman is rich. Le français est langue olympique, mais pour aider les milliers, les millions peut-être de touristes qui vont venir à Paris, il faut mieux parler anglais. Les policiers prennent des cours. Ça se passe à Clermont-Ferrand. Léna Marjac, journaliste RMC Sport, s'y est rendue pour voir si les policiers sont à l'aise avec la langue de Shakespeare.
Dans cette salle de classe, sept policiers venus de toute la France. Ils veulent améliorer leur anglais, pour cela de la grammaire, du vocabulaire, mais aussi des exercices de mise en situation.
On nous a chargé de mettre en place la venue du président et une course sur 5 km et faire en sorte que tout se passe bien.
Laurent est CRS à Marseille.
J'avais un anglais scolaire. Maintenant, on réactive un petit peu tout ce qu'on a appris, tout ce qui est enfoui. Et
pendant les Jeux Olympiques, il sera mobilisé.
On se doit d'être au top, tant sur le point de vue sécuritaire, mais aussi sur l'accueil du public. Ça nous est arrivé, tout un chacun, d'être à l'étranger, d'être un petit peu perdu et d'aller voir un collègue policier pour demander notre route. Tout en anglais, bien sûr, et on est quand même bien content quand on est bien renseigné.
Alors pour progresser, ces policiers peuvent compter sur Claire, leur formatrice.
Le but de ce stage particulièrement, c'est débloquer l'oral et l'amélioration de la fluidité. Ils savent tous parler anglais, c'est juste qu'ils ont un petit peu les blocages. Donc ils viennent là, on essaie de faire une ambiance d'apprentissage ludique et interactif. Et là, on a adapté certaines de nos activités pour les JO.
La règle dans la classe, une fois la porte d'entrée passée, plus aucun mot en français. Un bon exercice pour Laurent.
Ah mais ça fait 3 jours qu'on ne parle qu'anglais, donc par la force des choses, tout va mieux.
L'été prochain, les policiers seront amenés à échanger avec les millions de touristes et aussi les guider. Alors il faut un certain niveau d'anglais. Vincent est brigadier chef et formateur en langue anglaise à l'Académie de police de Clermont.
Le niveau moyen au sein de la police est équivalent au niveau moyen de la population française. On a déterminé que pour qu'un policier soit capable de remplir ses tâches quotidiennes en langue anglaise, un niveau B1 lui permet de faire son travail en anglais. On doit optimiser le niveau d'un maximum de fonctionnaires de police. L'idée est que chaque étranger présent pour les Jeux Olympiques ait capacité à trouver un policier capable de s'exprimer dans une langue étrangère.
Une fois le stage terminé, les policiers devront travailler par eux-mêmes jusqu'aux Jeux Olympiques pour garder le niveau d'anglais acquis.
Alors Christophe, convaincu?
You run a red light, it's 100 euros. D'accord. You understand what I mean?
J'ai brûlé un feu rouge, c'est 100 euros.
D'accord, ok.
3 points en moins.
3 points en moins, 3 points less. Merci Morgane pour toutes ces infos. Il y avait plein d'autres choses, malheureusement, on est un peu pris par le temps. On aura l'occasion d'y revenir demain dans une nouvelle édition de notre journal olympique. Merci Morgane Maury, 14h46. Alors, il faut qu'on parte en pub tout de suite, on n'a pas le temps d'aller voir les directs, non? Même pas? Allez, bon, on part tout de suite et on revient dans un instant. Le biathlon a débuté depuis un moment, Julien Richard nous attend. Et puis le rugby, on approche de la mi-temps. 13-3 pour La Rochelle face aux Stormers.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
14h49 sur RMC. On continue notre tour des directs avec le rugby. C'est la mi-temps actuellement au Cap. Est-ce que Mathis est toujours là pour nous donner le score à la mi-temps?
Bien sûr, Christophe. Les Stormers ont enfin ouvert leur compteur. Ça fait 13-6 pour La Rochelle. Deux pénalités marquées par Manili Bock. Les Sud-Africains ont fait le choix de jouer les points tout près de l'embut Rochelet. Manili Bock, un joueur qu'on connaît très bien. Malheureusement, il avait fait beaucoup de mal aux Français en quart de finale de la Coupe du Monde avec son jeu au pied. À noter que Garit est sorti pour protocole commotion, remplacé par Idoumi.
Merci Mathis, à tout à l'heure. Et puis l'autre direct du moment, c'est le biathlon avec la poursuite homme qui se déroule à Lenzerheide. Julien Richard suit la course pour nous. On a vu les filles tout à l'heure briller avec un doublé incroyable, Justine Brezaz devant Julia Simon, les deux copines, les deux inséparables. Est-ce que les Français sont aussi bien dans cette poursuite, Julien?
Écoute, c'est pas du tout la même histoire. Johannes Bö est en tête de la course sans faute sur le premier tir et malheureusement les Français sont plus loin. Le premier, Éric Perrault, est 14e à 1 minute 25 avec déjà une faute au tir. Quentin Fillon-Maillet a fait deux fautes sur son premier tir, il est à 1 minute et 33 secondes.
Si Julien, tu as un petit mot quand même de la performance justement de Justine et de Julia tout à l'heure, qui sont énormes, hein, notamment Justine qui signe un doublé.
Ouais, c'est la cinquième française à réaliser ce doublé sprint.
C'est le deuxième cette année pour les Françaises. Hein.
Et c'est le deuxième cette année puisque Lou Jean Monod qui est pas là aujourd'hui parce qu'elle a le Covid, elle a été malade. Elle revient demain pour la Mastart. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de victoires françaises cette saison. Ça fait 4. Il y a déjà eu un podium aussi pour Justine Brezaz la semaine dernière. Les Françaises sont en forme. Premier podium aussi pour Julia Simon que l'on a retrouvée, autant sur la piste que dans l'état d'esprit. Donc, il y a plein de bonnes choses sur cette course de cette poursuite féminine avant la première Mastart de demain.
Bon, en attendant, c'est les garçons hein, qui sont quand même pas au top depuis le début de la saison. Ils sont pas au niveau. Hein. Quentin Fillon-Maillet et toute la bande ne sont vraiment pas au niveau des jeunes femmes. Déjà l'année dernière, ça avait été un peu le cas avec Simon qui avait dominé les débats et les grandes stars du biathlon français sont dans le dur depuis le début de la saison.
Alors, je trouvais la date exacte, mais ça fait très 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 longtemps qu'au bout de 5 courses, il n'y a pas eu de podium français d'un garçon en Coupe du Monde. Bah, c'est le cas cette saison. Aucun podium. Et alors sur les skis, ça va. C'est-à-dire que quand on regarde les chronos, les temps de ski, ils sont en forme. Les Français, ils sont parmi les meilleurs. Alors ils sont pas tout devant, mais ça, ils sont dans le match. En revanche, c'est derrière la carabine qu'il y a un vrai souci depuis le début de la saison. Manque de confiance, alors c'est des cas, chacun est différent, hein, mais ce qu'on constate, c'est que globalement, cette équipe de France n'est pas au niveau pour l'instant derrière la carabine et qu'il faut régler ça et que c'est pas très très bien parti, je te le disais, sur cette poursuite, puisqu'on a déjà deux fautes pour Quentin Fillon-Maillet ou une faute pour Éric Perrault.
Merci Julien, tu suis pour nous évidemment cette poursuite avec Johannes Bö qui lui a retrouvé ses jambes de 20 ans. Hein. Il avait eu quelques difficultés en début de saison et là ça va beaucoup mieux. Il s'est dérouillé, le Norvégien, le plus grand champion avec Martin Fourcade, l'un des plus grands champions de cette discipline. On va partir pour Val d'Isère maintenant avec le critérium de la première neige version féminine avec ce week-end des descentes qui se déroulent donc sur les pentes de Val d'Isère. On est avec Arnaud Souk et Sébastien Amier qui ont fait la fête hier soir. Ils sont allés manger des petites choucroutes, bu quelques bières. Bah oui, c'est comme ça.
On avait parié ça, Christophe, quand on voyait la photo. T'allais nous afficher à l'antenne.
Ah, bah évidemment, évidemment.
On a bu une petite bière et on
J'ai jalousé. J'aurais tellement aimé être avec vous comme à l'époque où je me déplaçais avec vous. Bah, c'est fini tout ça, malheureusement. Avec mon fauteuil, on ne me laisse plus passer nulle part. Alors, revenons avant de parler des garçons parce que c'est ce qui nous intéresse un peu plus parce qu'il s'est passé plein de choses aujourd'hui à Val Gardena. Et il se passe pas mal de choses pour l'équipe de France de descente masculine. Revenons sur la descente féminine, remportée donc par la championne du monde, la Suisse Jasmine Fleury, qui n'avait jamais remporté l'épreuve de Coupe du Monde.
Alors si, elle avait remporté un Super G, pas en descente, mais elle avait remporté un Super G à Saint-Moritz il y a quelques années. Jasmine Fleury, c'est donc sa deuxième victoire en Coupe du Monde, elle qui s'était imposée effectivement lors des championnats du monde à Méribel-Courchevel en mars dernier. Voilà, il fallait partir tôt aujourd'hui. On regarde le podium occupé par les Dossards 6, 2 et 4. Et puis si on fait un petit focus sur les Françaises, ça n'a pas été formidable. Romane Miradoli, on va peut-être en reparler, qui voilà est de retour après une longue blessure, mais elle n'a pas couru aujourd'hui. Elle courra le Super G de demain. En revanche, Laura Gaucher, l'autre Française, on va dire, voilà, qui peut potentiellement performer, n'a fait que 22e. Et c'est quand même relativement lointain, Bastoun.
Ouais, c'est lointain sur une piste qu'elle connaît, hein, qu'elle pouvait apprécier. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une piste difficile. Les organisateurs ont vraiment fait du bon boulot, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de neige, hein, comme beaucoup de pluie, beaucoup de neige sur cette piste durant cette semaine. Ils ont bien bossé dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont été un petit peu surprises. Alors, elles ont été amputées d'un entraînement hier, donc elles n'ont fait que deux entraînements, mais on a vu hein, sur une piste où il y a beaucoup d'ombre ici à Val d'Isère sur la hockey, en difficulté, Ngojea, même des grands noms de la descente, mais pour avoir une belle, pas une victoire surprise de Jasmine Fleury, hein, puisqu'elle est championne du monde en titre, mais en tout cas, elle a su se déjouer des tours sur cette piste de la hockey.
Bon, voilà pour la victoire de Fleury. Un mot des Françaises, bon, elles sont dans les exceptions.
Oui, mais c'est ce qu'on disait. Laura Gaucher, 22e, effectivement, c'est loin. C'est relativement loin également pour les autres Françaises. Hein. On cherche Camille Cerruti, par exemple, à la 40e place. On a également... on va y arriver. Karen Smajla Clément qui termine 36e, pardon. Voilà, faut aller chercher tellement loin. Et Anouk Erhard 44e. Ouais. C'est vraiment pas formidable. Mais il y a des espoirs que cela a quand même évolué un petit peu. On a le sentiment que cette équipe de France de vitesse féminine est sur la bonne pente, contrairement à il y a quelques années, Christophe.
On l'espère, évidemment. Si vous pouvez nous rentrer dans le top 20 ou le top 10, bon.
Ça va venir.
Oui, c'est sûr. J'espère que je verrai ça de mon vivant. Un petit mot des descendeurs français. Alors, les descendeurs, eux étaient en Italie, à Val Gardena. Alexis Pinturo, tiens, j'ai pas bien compris pourquoi, Bastoun, Alexis qui attendait avec impatience la première descente, pourquoi il ne s'est pas aligné sur les descentes de Val Gardena? Parce qu'elles sont trop techniques pour quelqu'un qui débute un peu en descente ou parce qu'il n'avait pas pu s'entraîner dessus?
Non, il manque un peu de kilos. Alors on sait qu'il a grossi un peu durant l'été. Physiquement, il s'est étoffé un petit peu. Et sur des pistes comme normalement la première qui était prévue à Zermatt et Tchervinia, il avait fait l'impasse volontaire puisqu'il y a beaucoup de portions de plate et de glisse où il n'est pas encore performant sur ces portions-là. Et c'est un peu similaire à Val Gardena, même si cette piste est très technique. Il l'a vu lors du premier entraînement qu'il était très loin, donc il a tout misé sur le Super G. Et puis il y a aussi demain et dimanche et lundi, pardon, les deux géants Alta Badia qui s'enchaînent, où il a besoin de faire du jus et puis jouer aussi un peu plus le gros résultat en géant. Et après il aura le mois de décembre pour se remettre dedans dès Bormio et puis après janvier avec les grandes classiques.
D'accord. Alors cette descente a été remportée par l'Italien Dominique Paris et les Français, bah ils sont là. Les jeunes Français, Cyprien Sarrazin termine quatrième, Nils Allègre est sixième. Sarrazin, c'est son deuxième quatrième place en deux jours, Arnaud. Hein.
Absolument.
Pas un coup d'épée comme ça. Hein.
Oui, effectivement, hein, il a terminé quatrième également du Super G. Alors c'est marrant qu'on parle de Cyprien Sarrazin parce qu'il est exactement dans la même position qu'Alexis Pinturo. Lui, il a fait le transfert des épreuves techniques. Lui, c'était un pur géantiste. Il a fait le transfert des épreuves techniques vers les épreuves de vitesse il y a déjà un an avec un succès certain, puisque quand on regarde un petit peu son palmarès, son Coupe du Monde, il n'a que 10 départs en descente et sur ces 10 départs, il y a quand même déjà 3 top 10. Une 6e place à Val Gardena l'an passé, une 4e cette année, une 10e place sur la Strife de Kitzbühel. Cyprien Sarrazin, on tient, je crois, quand même un garçon qui a réussi une reconversion Bastoun tout à fait honorable, on va dire.
Oui, c'est plus qu'honorable. Le podium n'est pas loin. Il était sorti lors de la première descente, donc c'est pas facile de se remettre dedans. Hier, il s'est rassuré avec cette belle quatrième place. Aujourd'hui encore, ça joue à pas grand chose du podium entre hier et aujourd'hui. Mais en tout cas, il est sur la bonne voie. Il a tout misé là-dessus. Il a été très vite à l'entraînement. Il avait gagné l'entraînement à Beaver Creek, un des entraînements, le dernier entraînement d'ailleurs, avec beaucoup d'avance sur des pistes techniques qui peut être encore meilleure, et on sera surpris de sa progression à partir de Bormio et je pense pour le mois de janvier, parce que toutes les descentes qui vont arriver, voilà, c'est des descentes qui, où il sait faire la glisse et la technique. En tout cas, voilà, c'est une belle équipe de descente, ça fait du bien, hein, avec aussi aujourd'hui la place de Nils Allègre, hein, qui confirme notre ami très cher, le fils de Luc Alphand, Nils Alphand, voilà, qui vient 15e avec le Dossard 56, qui a vraiment aussi fait une grande course.
Il est parti encore pour la Suède, lui, hein. C'est bon, il est bien français.
Non, pour l'instant on le garde, on en a besoin. Et puis là, c'est bien, ça, il nous a montré, voilà, hier qu'il a fait 20e en Super G. En partant avec un dossard élevé. Aujourd'hui, il reconfirme avec le 56, donc c'est bien. Et aujourd'hui, derrière, c'est pas rentré, hein. C'est le seul gros dossard étrenté. Et puis, Maxence Musaton, 15e. Donc, on a une belle brochette de descendeurs français dans les 15 premiers.
Eh ben, c'est magnifique. Et demain, donc, on verra ce que ça donne en géant, puisqu'il y a deux géants d'affilée à Alta Badia. C'est pas très loin de Val Gardena. Et vous, à Val d'Isère, vous avez encore une descente demain, c'est ça?
Ouais, c'est un super G.
C'est un super G, pardon.
Pour les filles. Et Alta Badia, si tu veux, c'est voilà, d'un côté de la montagne, t'as Val Gardena, de l'autre côté, t'as Alta Badia. C'est un petit peu comme Courchevel et Méribel. C'est pareil.
Ça
se fait en ski.
Eh ben, c'est très bien. On vous suivra demain et vous serez avec nous, évidemment, dans l'intégrale et dans les grandes gueules du sport demain matin. 14h59. Voilà pour notre page sport d'hiver. Tiens, rapidement, le biathlon avec toi, Julien Richard. Où en est-on de la poursuite homme?
Comme au bon vieux temps, ouais. Un Norvégien en tête, Johannes Bø, leader avec un bon matelas d'avance alors qu'il s'approche sur le troisième tir. Premier tir debout dans cette poursuite. Johannes Bø, donc, avec 30 secondes d'avance sur Johannes Kuhn, l'allemand, et Sturla Lagrid, le Norvégien. Les Français sont plus loin. 14e place pour Quentin Fillon-Maillet. Il est à 1 minute 27. Et puis la bonne course, très belle course même, d'Emilien Jacquelin, qui était parti très très loin. Dossard 36 à plus de 2 minutes. Il est 15e avec une seule faute au tir à 1 minute 40. Ça a une grosse minute du podium.
Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
Et on continue de suivre cette épreuve de biathlon dans un instant. La deuxième mi-temps également du match de Champions Cup entre les Stormers et La Rochelle. Et puis deux matchs de Ligue 2 qui vont venir s'ajouter à la danse des directs, notamment Auxerre, Ajaccio et Bordeaux, Saint-Etienne. Ce sera dans un instant sur RMC, juste après les infos.
RMC, Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
15h09 sur RMC, on va tout de suite repartir pour le Cap. Il y a peut-être un essai pour La Rochelle, même s'il est soumis à examen vidéo. Mathis Caron, en tout cas, magnifique essai inscrit il y a quelques instants par les Rochelais.
Oui, après une super percée de Leeds face à son ancien club, il avait quand même joué 71 matchs avec les Stormers. Il a récupéré un ballon sur une chistera manquée par les Stormers et il a filé directement à l'en-but avant de délivrer un superbe ballon pour Tanga qui a pu aplatir. Mais il y a actuellement une analyse vidéo, tu l'as dit Christophe, on va voir si ça va être validé par monsieur l'arbitre. En tout cas, entre deux, les Stormers ont bien débuté cette deuxième mi-temps. Ils ont inscrit une pénalité, donc ça fait 13-9 pour l'instant en attendant que cet essai soit validé ou non.
Ouais, dans la continuité alors, un peu de cette première mi-temps, hein, c'est vrai que les.
Ah, il y a eu. Ouais, alors il touche le ballon.
Légère en
avant, il y aura
pas refusé cet essai. Mais
il va être refusé.
Mais on a vu hein, quand les Rochelais ont le ballon, ils sont menaçants, ils ont des joueurs quand même avec beaucoup de qualité. Et c'est vrai que les Stormers, pour l'instant, bah, s'ils arrivent à remonter un peu la pente, c'est parce qu'ils ont la balle.
Ok, donc 13-9, tu nous. L'arbitrage vidéo est toujours en cours, Mathis ?
Ouais. C'est toujours en cours. On n'a pas d'informations pour l'instant. On revoit les images.
Mais bon, a priori, hein, Julien, ça fait peu de doutes. Voilà, l'arbitre qui revient et qui.
Accepte.
L'essai est accepté.
Accepte.
Ça alors ?
Essai marqué par Tanga. On est à la 46e minute de jeu.
Alors, j'y comprends plus rien.
Mais non, peut-être que l'angle où dans lequel le ballon tombe n'était pas mauvais finalement, parce que nous on a un peu. Voilà, on
a l'impression que le ballon tombait bien devant. Tant mieux pour les Rochelais qui donc inscrivent cet essai et qui vont avoir les moyens de le transformer dans un instant. Le biathlon, c'est avec Julien Richard, ça se passe à Lanzeride. La poursuite homme après le magnifique succès chez les filles et le magnifique doublé Brezaz-Simon. C'est Johannes qui explique à tout le monde comment on tire à la carabine et comment on fait du ski de fond. Hein,
et
Julien.
Encore, il n'explique pas vraiment comment on tire à la carabine parce que malgré ses trois erreurs, Johannes Beu. Est devant et assez largement puisqu'il a une trentaine de secondes d'avance sur son coéquipier. C'était un peu les championnats de Norvège il y a quelques instants. On était sur 5 Norvégiens, 5 premières places. Ça a un peu bougé après ce dernier tir puisque Bø donc est largement en tête devant Laegrid et Strømsheim, 3 Norvégiens donc. Et en 4e place maintenant Martin Ponsiluoma, le Suédois et Quentin Fillon-Maillet qui lui aussi a commis 3 erreurs derrière la carabine mais qui est bien revenu dans cette fin de course pour aller décrocher une place d'honneur. Alors c'est toujours pas un podium mais il était parti en 8e position et il devrait terminer aux alentours de la 5e ou 6e position. On va voir comment il tient aussi sur les skis, sur la dernière boucle, parce qu'on sent que ça fait un peu mal et qu'il est en train de perdre du temps sur notamment le Suédois Martin Ponsiluoma. Les autres Français sont beaucoup plus loin. On fera le point à la fin de la course, Christophe, mais
très bien.
Ils sont loin.
Ils sont loin, les autres Français. Il est 15h12, on part maintenant pour les terrains de foot. On n'a pas encore eu le temps d'aller dire bonjour à Nicolas Paolorsi et à Fred Joly. Qui vont suivre les matchs de la 18e journée de Ligue 2. Et évidemment, le choc, enfin, la magnifique affiche qui intéresse tout le monde, c'est cette rencontre entre deux anciennes gloires de la Ligue 1, Bordeaux et Saint-Étienne. Je crois que ça fait 18 titres. À eux deux, Nicolas.
C'est ça, salut Christophe, salut à tous. Deux monuments à la dérive, hein, puisque tu le disais, 18 titres à eux deux. Et des Girondins qui sont 17e de Ligue 2, première relégable. Des Verts qui restent sur 5 défaites consécutives et qui ont changé d'entraîneur. Première sur le banc de touche pour Olivier Dalloglio, l'ancien coach de Montpellier, de Brest notamment. Et après 12 minutes de jeu, il y a toujours 0-0. Deux clubs à la dérive, mais qui déchaînent quand même les passions, hein, puisqu'on a plus de 36 6000 supporters cet après-midi au Matmut Atlantique. Ambiance de dingue. Des supporters qui se sont massés autour du stade 3 heures avant le coup d'envoi. Voilà. C'est un match particulier, ce Bordeaux Saint-Etienne. Même au fin fond de la Ligue 2, tu sens que c'est vraiment un classique du foot français. 0-0 entre les deux équipes, 13 minutes de jeu. Mais là, il y a un bon coup franc pour les Verts qui ont une grosse occasion tout à l'heure autour du ballon. Dylan Chambost, il y a également Mathieu Cafaro. Ils sont à 25 mètres sur la gauche. Il essaye de la mettre dans la boîte. Oh, ça va filer en sortie de but. Alors que Raphaël Strasek, le gardien bordelais, a hésité à sortir. 0-0. Bientôt le quart d'heure de jeu au Matmut.
Merci Nico, on revient te voir. Et puis nous sommes également à Auxerre, à la Baie des Champs, là aussi un grand lieu de Ligue 1, un grand lieu du football français. Auxerre qui reçoit Ajaccio. Fred Joly est à la Baie des Champs. Salut Fred.
Salut Christophe, salut tout le monde, bienvenue à la Baie des Champs qui une nouvelle fois est bien rempli. On n'a pas de guichet fermé, mais on a quand même entre 15 et 16 000 spectateurs présents dans l'enceinte de ce stade pour assister à ce Auxerre-Ajaccio. Une équipe d'Auxerre qui reste sur deux victoires, qui aimerait, et le Christophe Pélissier, le coach auxerrois, lui disait cette semaine signer la passe de 3 face à cette équipe d'Ajaccio. Mais attention, les Corses ne sont pas faciles à bouger. Deuxième défense de ce championnat. Sur 17 matchs, ils ont signé 8 clean sheets et ils n'ont pris que 15 buts. Autant vous dire que c'est une véritable forteresse cette équipe ajaccienne, même s'il manque du monde, puisque Michel est blessé, Barreto, Marchetti, Nouri, Avinel, il manque du monde du côté d'Ajaccio. Et puis du côté d'Auxerre, la bonne nouvelle, c'est le retour de Ravelosson qui fait sa réapparition en tant que titulaire après avoir purgé ses 6 matchs de suspension. 15 minutes de jeu à l'Abbé Deschamps. Le score est de 0-0 entre Auxerre et Ajaccio.
Voilà, et Auxerre, en cas de victoire, prendrait provisoirement la tête de la Ligue 2 quand même. Exactement, Fred. Hein, ils sont là, hein, tes Auxerrois.
Ils sont pas loin. Angers est à 2 points et Laval est à 1 point. Donc ils pourraient provisoirement, en sachant qu'en plus, ils termineront cette année 2023 à Laval, ce qui nous promet une fin d'année 2023 plutôt passionnante pour les Bourguignons.
Très bien. À tout à l'heure, Fred, pour la suite de ce match. Donc 0-0 sur les deux pelouses. C'est terminé pour Johannes Bö qui s'impose dans la poursuite de Lenzerheide. Julien.
Sa 76e victoire dans sa carrière, Johannes Bö, le Norvégien, devant deux autres Norvégiens, Stromstein et Laigrid. Le premier français, Quentin Fillon-Maillet, est sixième finalement à 57 secondes du vainqueur. Éric Perrault confirme aussi, lui, aux alentours du top 10. Il est 11e cette fois alors qu'il était 10e du sprint avec 4 photos de tir. C'est beaucoup. La très belle course quand même d'Emilien Jacquelin qui était parti d'Auxerre. 36 qui termine 15e en belle remontée avec 3 photos de tir. C'est plus compliqué pour les autres Français, notamment Fabien Claude qui est 29e avec 5 photos de tir encore.
Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptik. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
Merci Julien. Il reste deux mass starts qui auront lieu demain. Ce sont les premières de la saison. Hein.
Midi 30,
c'est toujours l'épreuve la plus spectaculaire.
Hein. Les 30 meilleurs. Voilà. Mmh. Les 30 meilleurs, on les garde et elles partent en ligne pour une course avec 4 tirs là aussi. Les femmes, ce sera à midi 30 et les garçons à 14h45 pour la première mass start de cette saison.
Eh bien, on les vivra ensemble demain, donc les mass starts à Lenzerheide. Merci Julien. 15h16, on va aller au quintet dans un instant. Un tout petit mot quand même sur le match entre les Stormers du Cap en Afrique du Sud et La Rochelle. C'est avec Mathis Caron.
Ça fait toujours 21-9 pour La Rochelle au Cap, Christophe. L'écart s'est resserré, mais les Rochelais se sont donné un peu d'air. On sent quand même que les Stormers commencent cette seconde période avec de nouvelles intentions. Ils se sont approchés très dangereusement de l'embut maritime il y a quelques minutes. Une situation bien gérée par Astoy et Dulin sous pression. Il y a une grosse phase de possession pour les Stormers qui viennent de faire le choix de jouer une pénalité en touche et qui poussent pour mettre leur premier essai. Ils sont à peu près 5 mètres de l'embut Rochelais.
Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que les Rochelais, ils ont baissé un peu l'intensité en défense, hein, et là, ils ont subi quand même, alors, un certain nombre de temps de jeu. De
la aussi bon sous les chandelles, les Sud-Africains, ils nous avaient donné la leçon pendant la Coupe du Monde de rugby. C'est pareil, la magnifique passe au pied de Liboc, complètement là-bas sur l'aile droite. Le ballon récupéré, il y a un Rochelais et un Sud-Africain à la bagarre pour récupérer le ballon. Et comme d'habitude, ce sont les Sud-Africains qui sont les plus forts sous les chandelles, et sous les coups de pied offensifs.
Comme Liboc, et qui a ce talent au pied avec des qui avance et il distribue. On a vu beaucoup les ailiers, c'est vrai que Zaz et même l'anglais Lauder, on les voit beaucoup, vraiment ils sont nourris par ces jeux au pied de Liboc. Alors Liboc là, il est en train de briller sur cette deuxième période.
Ouais, magnifique coup de pied de Liboc et superbe essai donc des Stormers qui reviennent à combien, Mathis, là? Ok, bon, on reviendra tout à l'heure. Il y avait 29, donc ça fait 9 plus 5, ça fait
21-16. Okay.
20, hein, 20. Il n'y a que 20 pour les Rochelais. Hein. Ils ont marqué que 20 points.
Ah oui,
enfin, c'est ce qu'indique le tableau d'affichage. Allez, à tout à l'heure, Mathis. 15h17 sur RMC. Le quintet, tout de suite. C'est à Vincennes que ça se passe. C'est avec Fred Kita. On y va tout de suite.
Bon, le quintet se dispute sur l'hippodrome de Paris-Vincennes sur un parcours de vitesse 2100 mètres à parcourir avec le numéro 7 Bordeaux S, drivé par Jean-Michel Bazir qui est en tête devant à son extérieur. Le deuxième favori de l'épreuve, le numéro 3 Unico Broeline à la corde en troisième position. On a le numéro 2 Diego Sauton, un outsider. On a aussi un rapproché du numéro 12 Avedrim qui vient en troisième position actuellement dans le tournant final avec ce numéro 7 Bordeaux S qui a toujours l'avantage avec le numéro 3 Unico Broeline à son extérieur et surtout le numéro 12 Avedrim qui commence à mettre vraiment la pression sur cet animateur. Le numéro 7 Bordeaux est toujours en tête avec le numéro 12 à son extérieur. Ils sont un peu détachés, notamment du numéro 3 Unico Broeline qui est toujours en troisième position avec Diego Sauton côté corde. Et c'est pour l'instant une lutte à deux dans cette phase finale. Il rentre dans cette ligne droite de Paris-Vincennes avec le numéro 7 qui est à la faute, coup de théâtre qui disparaît donc, et le numéro 12 Avedrim qui hérite donc du commandement devant le numéro 3 Unico Broeline et d'autres concurrents. Mais c'est le numéro toujours 12 Avedrim qui a l'avantage, le numéro 12 Avedrim qui va se faire certainement rattraper même au poteau par le numéro 15 Oscar Oscar LA qui revient très bien dans cette fin de course pour l'emporter. Oscar LA qui s'impose à un autre trotteur venu de Scandinavie qui gagne brillamment cette course après un superbe retour dans la ligne droite finale. Il est revenu dominer le numéro 12 Avedrim qui semblait pourtant faire la différence mais qui a craqué dans la phase finale de ce quintet plus. Donc le 15 Oscar LA qui s'impose devant le numéro 12 Avedrim. Ensuite on a le numéro 1 Fanatic Flash qui va se classer 3ème et après d'autres concurrents qui terminent très bien, notamment le numéro 16 Balsamine Font à la 4ème place devant le numéro 4 Elliot de KO. Donc arrivée provisoire 15, 12, As, 16 et 4.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Merci Fred. 15h19, 20 pour La Rochelle, 14 pour les Stormers. Attention, il n'y a plus que 6 points d'écart et on ne joue que la 54e minute de cette rencontre. Le foot avec l'ouverture du score en faveur de la JOCR. Fred Joly qui mène 1-0 face à l'Ajaccio.
Exactement, la JOCR mène 1-0 suite à un coup franc sur Ravelson. Rapidement joué, le ballon était décalé vers Sinayoko sur le côté droit qui centre devant le but et Aïn surgit pour mettre le pied en opposition. Aïn qui était l'homme en forme de ce début de saison et puis qui depuis quelques matchs piétine un petit peu de mal à faire la différence. Et bien ça va rassurer le jeune Gauthier Aïn avec ce but. C'est son 7e de la saison. Il permet à la JOCR de mener 1-0 après 21 minutes de jeu à la Baie des Champs. Les Bourguignons ont fait la différence face à une équipe ajaxienne. On vous le disait, en début de rencontre, une équipe ajaxienne qui n'est vraiment pas facile à bouger défensivement. Et bien voilà, les Bourguignons ont trouvé l'ouverture et mènent 1-0.
Et ils sont leaders provisoires de cette Ligue 2 si le score devait en rester là. En attendant les matchs d'Angers qui jouera ce soir, me semble-t-il, oui, ce sera ce soir à 19h en déplacement à 3, et puis Laval, son second, Laval jouera là aussi cet après-midi à 19h en recevant le Pau FC, un match à suivre évidemment sur RMC tout à l'heure. Bordeaux-Saint-Etienne, Nicolas Paolorsi, il y a de la ferveur évidemment à Chabon-Delmas cet après-midi pour ce match qui rappelle
au match-mute Atlantique, tu vois, t'as fait un lapsus
au match-mute, pardon, oh là là.
Ah oui, mais parce que c'est vrai que les grandes affiches des Girondins, c'était à Chabon-Delmas, au Parc Lescure même, on appelait ce stade.
Ce stade en plein centre-ville, facile d'accès, un stade historique avec ce long couloir de 15 km de long. Vous étiez mieux là-bas. Bon, maintenant il y a l'UBB. Hein. Ils sont bien aussi.
C'est un stade historique hein, qui est d'ailleurs classé comme monument historique.
D'ailleurs, il commence à branler un peu à droite à gauche quand même, droite et de gauche. Hein.
Ça commence à être un peu difficile. La municipalité a fermé il y a 2 semaines le virage nord parce qu'il y a l'édifice qui, bon, pas qui s'écroulait, mais voilà, qui commençait à vieillir un petit peu. Faut taper un petit peu ce stade-là, et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça va peut-être poser problème aussi à l'UBB de rester joué à Chabon. On est au Matmut Atlantique dans ce superbe stade quand il est rempli. Ici aussi ce centre de Vital Ntimba, tête d'Albert Ellis pour les Bordelais. Il y a toujours 0-0, 22 minutes de jeu. Franchement, c'est un match assez équilibré entre deux équipes qui cherchent à se rassurer. On sent que Saint-Etienne avec son nouveau coach Olivier Dalloglio propose des contres et plutôt intéressants en transition. Ils sont solides et les Girondins ont du mal à vraiment déséquilibrer cette défense des Verts, même s'il y a des situations des deux côtés. Le ballon allongé de Briançon, duel de la tête remporté par Stian Gregersen, mais il va y avoir une faute sifflée et le ballon sera rendu au vert dans le rond central. 22 minutes de jeu, 0-0 entre Bordeaux et Saint-Etienne.
Ce qui est fou, c'est que c'est un match de Ligue 2, mais que l'affiche, si elle était en Ligue 1, intéresserait tout le monde. Bordeaux-Saint-Etienne, c'est oui. Quand même. C'est...
En plus, ce sont deux clubs amis. Les ultras des deux clubs sont très proches les uns des autres. Attention à Bouchoirie, à l'entrée de la surface pour Saint-Etienne. La frappe de Bouchoirie qui passe à côté. Grosse occasion pour les Verts. Benjamin Bouchoirie, là, qui s'est remis sur son pied droit. La petite fin de frappe deux fois. C'était pas Bouchoirie d'ailleurs, c'était Mathieu Cafaro, il me semble, ou Dylan Chambost. 0-0. Mais oui, totalement. C'est ce que je te disais. C'est deux monuments en déroute qui vivent des saisons catastrophiques, des scénarios catastrophiques, des problèmes avec la DNCG, des problèmes entre les supporters et la direction. Franchement, les trajectoires de ces deux clubs sont assez similaires. Et pourtant, bah, ce sont deux clubs qui déchaînent encore les passions. Et ça se ressent. Donc, en fait, t'es content d'être là quand tu vois ce match-là, mais tu te dis qu'est-ce que c'est dommage quand même quand tu vois la trajectoire de ces deux clubs.
T'as envie de les retrouver à l'étage supérieur quand même, c'est évident.
Le potentiel de Bordeaux et de Saint-Etienne, il est colossal. Donc, 0-0.
Ok Nico, tu vas en revivre un jour des matchs de Ligue 1, t'inquiète.
Écoute, je suis encore jeune, donc...
Ouais, t'es encore jeune, d'ici une dizaine d'années, tu verras ça.
Ça devrait le faire.
Allez, à tout à l'heure. 15h23, le rugby, La Rochelle, en déplacement au Cap, en Afrique du Sud. C'est l'été, là-bas, sur la pelouse des Stormers. Et pour l'instant, les Rochelais sont toujours devant, Mathis Caron. Mais attention, les Sud-Africains sont revenus à 6 points. Attention à ne pas connaître le même genre de mésaventure que lors du dernier quart de finale de la Coupe du Monde. Hein.
Et oui, ça fait toujours 20 à 14. Pénalité manquée, heureusement, par les Sud-Africains après l'essai de Loader il y a quelques minutes. L'écart se resserre et le réveil des Stormers se confirme. On joue à la 57e minute de jeu. On sent les Rochelais un peu moins présents physiquement, à la traîne sur certaines courses. Les ailiers sud-africains gagnent beaucoup de mètres sur leur percée. On rappelle que le voyage était éprouvant jusqu'en Afrique du Sud. Du côté des locaux, une grosse partie de l'équipe type des Stormers était restée à la maison pour se préserver lors de la première journée de Champions Cup. Ça montre que la Rochelle était très attendue au cap. Ils tiennent pour l'instant, mais il faut rester concentré côté maritime.
C'est une équipe tout à fait sérieuse, hein, parce que même avec les seconds couteaux, ils ont quand même été faire un match quand même de grande qualité à Leicester. Ils ont perdu de peu, mais c'est vrai que la préparation, le voyage, on le ressent en tout cas dans les jambes des Rochelais, qui sont beaucoup plus moins fringants en fait. On le sent, hein, sur les portées, ils ont du mal à avancer. Les attaques de trois quarts, souvent ils subissent. Ça se débarrasse un peu du ballon au pied. Et c'est vrai que pour l'instant, à l'inverse de l'Ibok, ben, les jeux au pied sont pas offensifs. Hein, c'est plus on fait reculer un peu les assauts, la vague bleue des Stormers, plutôt que d'essayer de les menacer.
Avec peut-être ce ballon là, bien joué pour les Rochelais, un coup de pied qui renvoie le ballon dans les 22
ils ont leurs armes fatales avec Gauthier, voilà, monsieur Ridley qui récompense beaucoup les rucks défensifs, les intervenants défensifs. Mais moi j'aimerais mettre une petite loupe en tout cas sur la défense des Rochelais, hein, qui a longtemps fait gagner en tout cas cette équipe, qui est très agressive, qui monte bien. Mais Liboc aujourd'hui, avec toute la clairvoyance et la lucidité qu'il a au poste, et ben à chaque fois en fait il joue dans le dos des défenseurs, parce qu'en fait il laisse passer les défenseurs, et que ça soit à la main en jouant avec des centres, alors il a des centres de qualité, ou au pied, le plan profond qui est dégarni. C'est vrai que c'est un peu compliqué de la part de la défense rochelaise.
Avec une pénalité en faveur de La Rochelle, Mathis, une pénalité
un peu excentrée sur la gauche du terrain.
Qui vont taper, hein, que les Rochelais vont taper. Hein.
J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression.
Ah, peut-être pénal touche.
J'ai l'impression. Ah,
c'est un peu leur arme.
Ah non, ils vont la taper, pardon. Ouais. Astoy se prépare.
Ouais. Ah, mais c'est quand même un signe fort, parce que jusque ça fait 3-4 ans maintenant, dès qu'ils avaient ce genre de pénalité, c'était touche. Et ils pouvaient faire confiance en tout cas à leur groupe pénétrant. C'est peut-être un aveu de faiblesse, hein, de prendre les points.
Astoy qui fait un sans faute pour l'instant. On rappelle qu'il était meilleur réalisateur de la dernière Champions Cup avec 97 points marqués. Il se prépare, excentré côté gauche, à environ 30 mètres. Ça fait toujours 20 à 14. On joue la 60e minute de jeu, pardon.
Ouais. Allez, on va sur cette pénalité. Antoine Astoy face au perche. Et ça va passer
manqué
à côté.
À côté.
Et oui.
Toujours 20 à 14 pour La Rochelle, 60e minute de jeu.
Franchement, même Julien Brugnol aurait réussi celle-là.
J'adore ce genre de réflexion. Tu t'es déjà retrouvé face au poteau à un match en pression, ton équipe allait en train de descendre au
terrain. Ah non, mais t'as pas le droit de rater ce coup de pied là.
Bien sûr,
Antoine Astoy, c'est un buteur de très haut niveau.
Aller dans ses corps, surtout pour un droitier, aller dans ses corps normalement, mais voilà, après ça, c'est à l'image un peu de l'équipe qui pour l'instant a baissé un peu en termes d'intensité et d'opportunité.
Allez, 15h27, on fait le tour de nos directs. Donc on rappelle 20-14 pour La Rochelle face aux Stormers. Le foot à Auxerre Ajaccio, Fred Joly.
27 minutes de jeu, la JOC emmène 1-0 avec ce but inscrit à la 18e par Gauthier Hein, parfaitement servi par Sinayoko, 1-0 pour la JA.
Et puis Bordeaux-Saint-Etienne, le choc de la Ligue 2, c'est avec Nicolas Paolorsi.
27 minutes de jeu au match but Atlantique, 0-0 entre Bordeaux et Saint-Etienne.
Il est 15h27, vous êtes à l'écoute de l'Intégral Sport, on revient dans un instant.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
Et on repart tout de suite pour la baie des Champs avec un deuxième but au Serrois, Fred.
Exactement, la JOC emmène maintenant 2-0. Quelle belle construction de la part des Ajaïstes avec l'ouverture de Joubal dans la profondeur. Sinayoko, très intelligemment, la petite déviation pour Gauthier Hein. On vous le disait, il n'était pas en grande forme, et ça va beaucoup mieux. Il va seul au but, il ouvre parfaitement son pied gauche. La petite balle par-dessus le portier Solacaro pour aller se loger dans le filet opposé. Et après 32 minutes de jeu, grâce à un doublé de Gauthier Hein, et la Josserne mène 2-0 face à la CIA Ajaccio.
Et toujours rien de marqué au Matmut Atlantique, Nico, entre Bordeaux et Saint-Etienne.
Ouais, reste 13 minutes, toujours 0-0, même si les Verts là sont en train de prendre la mesure des Girondins, en tout cas au milieu de terrain, et ça se ressent, ils se projettent mieux techniquement, il y a moins de déchets. Cette opportunité pour Saint-Etienne sur le côté gauche avec Chambaud, qui va provoquer Malcolm Bokele. On est à l'entrée de la surface de réparation, ballon glissé dans la
en profondeur pour Cafaro qui revient derrière. C'est pas terminé cette action. C'est une nouvelle fois une bonne séquence des verts. Dégagement de Yohan Barbet, le capitaine bordelais. En touche, ça pousse pour l'AS Saint-Etienne qui termine mieux cette mi-temps que les Girondins. 0-0.
Ok, ok. 15h32, on suit également la Champions Cup de rugby avec le premier match du jour qui oppose depuis 14h les Stormers, la province du Cap en Afrique du Sud, à La Rochelle, le champion d'Europe en titre. Champion d'Europe qui, on le rappelle, a perdu la semaine dernière à domicile face au vice-champion d'Europe,
Leinster.
Leinster, qui est donc dans l'obligation de l'emporter aujourd'hui, mais qui ne fait pas une impression incroyable sur la pelouse des Stormers. Ils sont devant.
Ouais,
mais...
Ils ont bien débuté ce match, notamment sur le plan de vue défensif, mais on a l'impression que ce voyage est en train de peser, en tout cas dans les jambes, on les sent moins durs défensivement parlant, et offensivement, c'est un peu le désert de Gobi. Hein. Ils proposent rien, ils sont pas très menaçants. C'est vraiment sur des coups d'éclat ou sur des ballons récupérés qu'ils arrivent à marquer.
Alors, on rappelle que La Rochelle est privée depuis le retour de la Coupe du Monde de sa star, hein, l'un des meilleurs joueurs français, l'un des meilleurs joueurs au monde, qui s'appelle Greg Aldrit, qui a réussi à négocier un repos de 2 mois. Il est actuellement en fin de repos. Il devrait reprendre
début janvier.
Voilà, peut-être certains évoquaient peut-être son retour pour le dernier match. Voilà, mais bon. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs.
En tout cas, je pense que c'est une première.
Il manque
aujourd'hui, mais je pense que c'est.
Mais c'est pas suffisant.
C'est global. Il y a des joueurs. On voit l'image de Carbarlo. Il y a des grands joueurs qui je pense que le combo l'année dernière, Coupe d'Europe, Championnat, où ils ont joué les deux à fond jusqu'en finale.
Ouais, la déception de la finale.
Ensuite, la Coupe du Monde derrière, ça fait beaucoup de. Notamment mentalement, c'est de l'énergie qui est difficile à régénérer. Et je trouve que le groupe, parce que c'est un groupe avec beaucoup de compétiteurs dedans, a du mal à repartir sur de bonnes bases. Et voilà, mais ça fait partie du jeu. C'est là où on voit que ces sportifs sont humains, ils sont capables de ressentir et de subir aussi la fatigue mentale.
Ouais, on a vu que le Stade Toulousain avait été un peu dans la même situation que La Rochelle. La semaine dernière, ils se sont bien rattrapés. Ils ont enfin livré une prestation très aboutie dans la première journée de championnat.
Ouais, mais contre une équipe de Cardiff qui est faible.
Quand même les deux équipes qui fournissent le plus d'internationaux à l'équipe de France, qui ont été tous les deux dans les phases finales et de la Champions Cup et du top 14, et effectivement, qui ont beaucoup donné pour la Coupe du Monde. Donc, effectivement, au bout d'un moment, ce ne sont pas des machines et il faut recharger les accus, et ce n'est pas le cas.
Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du cas Grégory Aldrit. C'est une des premières, en tout cas pour moi, d'entendre ça, qu'un joueur international aussi important soit au repos, et en tout cas, c'est vraiment pour sa santé et même pour l'avenir du club. Je pense que c'est à réfléchir, notamment dans les squads, dans les après-grands événements comme la Coupe du Monde ou comme des campagnes de Coupe d'Europe, pour avoir un peu plus de rotation. Parce que c'est vrai que les joueurs, ils font, je ne vais pas relancer un débat sur le nombre de matchs qu'un joueur de haut niveau qui est titulaire en club fait dans l'année, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs faits et de plus en plus de haut niveau.
Et Roxane, notre productrice, me dit en plus La Rochelle a perdu son capitaine emblématique Romain Fazi, qui était un véritable catalyseur, qui était un véritable aboyeur et qui savait motiver.
Qui était un joueur qui n'était pas le meilleur joueur sur le terrain, mais qui était vraiment l'ADN de ce club et qui était capable de fédérer en tout cas tous ces grands joueurs, ces stars. Parce que tout à l'heure tu parlais d'Aldrit, mais il y a beaucoup de stars dans cette équipe de La Rochelle. Et c'est vrai que Ronan O'Gara s'était beaucoup appuyé dessus. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas un joueur qui aurait fait vibrer en tout cas le mercato, mais c'est un joueur qui était attaché à ce club, qui était un peu l'ADN et qui surtout était capable d'aller chercher le meilleur des uns et des autres et de souder une équipe autour de lui.
En tout cas, les Rochelais pour l'instant sont arc-boutés en défense et ils ne laissent pas les Stormers approcher. Ils sont dans leur camp encore, les Stormers, mais c'est vrai que ce Liboc abuse des coups de pied par-dessus la défense rochelaise, mais les Rochelais se récupèrent. Mathis, toujours ce score de 20-14. Hein.
Toujours 20-14, 68e minute de jeu, plus qu'une quinzaine, une douzaine de minutes à jouer. Ça tient pour les Rochelais, vous l'avez dit, mais la fin de rencontre pourrait devenir irrespirable à ce rythme. Un essai et une transformation et les Stormers repassent devant. Pour l'instant, on ne garde pas les ballons côté maritime, on s'en débarrasse très vite. On le rappelle, ils ont besoin d'une victoire en terre sud-africaine. Il ne reste que 2 matchs de poule après cette rencontre. Ils vont jouer contre Leicester à domicile, puis à Manchester contre les Sharks.
Ouais. Ok Mathis, 15h36, 20-14, 6 points d'écart en faveur donc de La Rochelle. Il reste 12 minutes à jouer dans ce match. Bordeaux, nous allons du côté du Matmut Atlantique, parce que de l'autre côté de Bordeaux, on en parlait tout à l'heure, à Chabon-Delmas, il y aura tout à l'heure là aussi un match de Champions Cup. On en parlera dans quelques instants avec Paul Lafitte. Ce sera pas Nicolas Paolorsi au commentaire. Il a choisi son camp, le camp du football. Qu'est-ce que vous voulez, Bordeaux-Saint-Etienne, c'était pas mal, c'est vrai. Sur le papier, c'est magnifique. Hein.
Bah pour la fête populaire, c'est bien. Après, en termes de qualité de jeu, je sais pas si je suis gagnant au final. Mais 0-0, 37 minutes de jeu. Il y a une énorme casse pour les Bordelais, la rencontre avec un 1-2 entre Elis et Lee Volant. Elis est tout seul face à l'Arseneur. Il frappe à côté. Corner pour Bordeaux. Attention à ce ballon qui voyage dans la surface et qui n'est touché par aucun joueur. Danilo Ignatenko va récupérer la balle sur le côté droit. Touche à venir pour les Girondins qui sont un petit peu mieux alors qu'ils étaient dominés là sur des contres. Ils ont su faire la différence grâce à la vitesse d'Albert Elis. Mais quelle maladresse une nouvelle fois pour l'attaquant du Honduras qui est le meilleur buteur bordelais cette saison, qui a peu joué, qui manque parfois un petit peu de rythme, qui n'est pas le joueur le plus élégant techniquement à voir, mais qui a des vraies qualités face au but. Lee Volant dans la surface. Oh, pénalty, non, c'est pas sifflé par monsieur Delpech alors que Jérémy Lee Volant, le bordelais, s'est écroulé dans la surface. Pas terminé pour Bordeaux, ça pousse vraiment là. Gros temps fort des Marinés blancs avec Vital Ntimba sur le côté gauche. Ntimba qui va travailler face à lui, Mouefé qui va revenir derrière avec Sissoko. Il y a une possibilité de centre dans la surface et finalement Sissoko va faire tourner la balle avec Juan Barbet. Pedro Diaz à 25 mètres qui essaye d'armer une frappe, c'est contré. Vite Potlik à la récup. Oh, c'est sorti. Quelle parade extraordinaire de Gauthier Larsonneur, mais il n'a pas le droit. Yann Vite Potlik, le buteur des Girondins de Bordeaux, le numéro 9, seul face au but, grand ouvert, et il y a un miracle du gardien de la AS Saint-Etienne. 0-0, 39 minutes de jeu, corner à venir pour Bordeaux.
On est à revenir pour les Girondins. Pendant ce temps-là, Auxerre déroule face à Ajaccio. Fred Joly, la place de leader leur tend les bras, Bourguignon.
Oui, leader provisoire, certes, mais leader. Ce serait un beau pas hein, pour ces Auxerrois qui rêvaient de signer une troisième victoire consécutive. Ils l'avaient déjà fait au mois d'octobre. Et Christophe Pélissier disait que c'est vrai que lorsqu'on enchaîne trois victoires, eh bien, on fait un grand pas dans l'avance des points avec des Auxerrois qui sont toujours en possession du ballon. Évidemment, ils sont en confiance. La frappe de Sinayoko et passe juste à côté du but de Solacaro. Ils sont en confiance, les Auxerrois. Ils font tourner, ils combinent, ils vont vite. Les Ajacciens sont en place, mais ont parfois du mal à maîtriser cette équipe auxerroise qui va vraiment de l'avant. Et quand une équipe est en confiance, et bien effectivement, et évidemment, c'est bien plus facile dans la tête et dans les jambes. Donc tout va bien pour les Bourguignons. Et un Gauthier Hein qui a enfin retrouvé le chemin des buts, et ce, à deux reprises dans cette rencontre. Lui qui, depuis quelques temps, ben, doute un petit peu moins bien, un petit peu moins en forme. Et bien, il semblerait que Gauthier Hein ait retrouvé sa patte gauche, puisqu'il a marqué deux fois du pied gauche, et les Auxerrois mènent 2-0.
Merci Fred. 15h39, Will Skelton se marre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se marre quand la...
Ah, il y a un peu d'agacement.
L'homme est demi, hein, c'était le surnom d'Olivier Nerf.
Je peux te promettre que lui le mérite très très bien.
C'est deux hommes en lui-même, c'est plus qu'un et demi, hein, Skelton.
Tout est démesuré chez lui. Sa taille, son envergure, sa force, tout est démesuré.
Il veut dire tout.
Ah, il en aime bien. Souvent, okay, c'est le talonneur remplaçant des Stormers. Hein,
tu dis tout est démesuré, quoi.
J'en sais rien, j'ai pas été dans le vestiaire avec lui. Mais en tout cas, je peux te dire, j'ai été à un match Barbarians français contre l'Australie. Il y a eu un petit rixe. Je me suis retrouvé, il m'a tapé sur l'épaule, je me suis retourné. Ça ne s'arrêtait pas. Il était tellement haut. Mais bon, c'est vrai que non, ça commence à s'énerver un petit peu. On sent un peu de tension, notamment de la part des Rochetais, hein, qui ne retrouvent pas son jeu. Leur jeu, en tout cas, ils ont du mal à... Et ça crée un peu de la frustration. C'est vrai qu'on a quelques gestes d'énervement. Moi, j'espère que M. Ridley va contenir tout ça.
Mathis, ça donne quoi?
Toujours 20-14, on rentre dans les 10 dernières minutes. Les Stormers qui manquent des occasions de revenir au score depuis tout à l'heure sur des petites fautes de main dans les 22 mètres. Rochelet, c'est dur cette fin de match pour les Maritimes. Vraiment une grosse baisse d'intensité dans les duels, vous l'avez dit. Et ballon en main, c'est très brouillon et c'est très tendu aussi entre les joueurs. On voit beaucoup d'accrochages à chaque arrêt de jeu, après chaque mêlée, après chaque touche. Vraiment une fin de match qui risque d'être très difficile si les Rochelais n'arrivent pas à se dégager.
Mais Mathis, tout à l'heure, ton analyse était excellente. C'est vrai que tu disais que les Rochelais se débarrassaient énormément du ballon par le pied, et c'est vrai que tant qu'ils le garderont pas, ils se créeront pas d'opportunité, en tout cas pour poser. Donc finalement ce score et le temps qui passe, parce que là il reste que 9 minutes, c'est un mal pour un bien, parce que c'est vrai que je les vois pas aller chercher en tout cas le point de bonus offensif, hein, c'est-à-dire marquer deux essais de plus, parce que les Rochelais sont très clairement en train de préparer le voyage retour à La Rochelle. Là ils sont pas du tout dans le tempo.
C'est sûr, et on a l'impression qu'ils ne veulent même plus marquer, tu l'as dit. On les a plus vus dans les 22 mètres des Stormers depuis au moins 10 bonnes minutes, donc on sent qu'ils veulent juste tenir ce score pour l'instant. Mais là, il y a une touche intéressante justement dans le camp des Stormers, et c'est récupéré par les Rochelais qui vont pouvoir peut-être repartir à l'attaque et surtout gagner du temps en cette fin de match. On est à la 71e minute de jeu.
Ok, 15h42, on vous rappelle qu'il y aura d'autres rencontres tout au long de l'après-midi, notamment UBB Bristol qui débutera dans une petite demi-heure maintenant. On va retrouver Paul Lafitte dans quelques instants pour nous parler de ce match. Le Loup, l'équipe du Lyon, de Lyon jouera face aux Bulls. Ce sera à 18h30 et puis un peu plus.
Bulls, non?
Bulls.
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 Non, c'est les Bulls.
Les Bulls. Ah, mais tu as l'accent africaneur aussi. Moi, je l'ai pas.
Ah, j'ai joué avec quelques Sud-Africains.
T'as une bonne tête d'africaneur quand même.
C'est vrai?
Ouais, et puis Toulouse se déplacera sur la pelouse des Harlequins. Je l'ai bien dit.
C'est parfait.
C'est parfait. Et Paris recevra Leicester.
Ah, impeccable.
Ah là, vous avez vu.
C'est incompréhensible, ça. Leicester.
Ça s'écrit Leicester.
Eh ouais,
ça se prononce
des anglais, on ne se pose plus de questions.
Exactement. Surtout pas les froisser, surtout. il est 15h42, toujours 6 points d'écart en faveur de La Rochelle. On revient dans un instant pour revivre la fin de ce match. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h46, petit ouf de soulagement pour La Rochelle qui vient d'inscrire un nouvel essai. Mathis Caron, sans doute l'essai de la gagne pour les Rochelais sur la pelouse des Stormers.
Oui, après une faute de main des Stormers, c'est Astoy qui file à l'embu et qui donne de l'air enfin à La Rochelle. Ça fait donc 20, excusez-moi, mais ça va passer sans doute pour La Rochelle qui a subi dans cette deuxième mi-temps un essai tout à l'heure marqué vraiment contre le cours du jeu, mais sinon il n'y avait rien à se mettre sous la dent côté maritime dans cette seconde période.
C'est un peu la puce répétita du deuxième essai, hein. C'est vrai que c'est sur un ballon récupéré, encore une fois c'est pas construit, mais en même temps, à la fin du match les Rochelais, on va leur demander de gagner le match, hein. Donc
ça fait 25-14 essai marqué par Astoy contre le cours du jeu. Encore une fois, on sentait que les Rochelais subissaient depuis toute cette seconde mi-temps et finalement ils marquent deux essais un peu contre le cours du jeu, et Astoy qui va placer son ballon pour transformer cet essai.
Ouais, l'essai de la gagne à 14-25, il y a plus 11, ça sera plus 13, donc il y aura plus rien à faire pour les gens,
mais là, ça passe. Et c'est marqué pour Astoy qui était juste en face des poteaux, ça fait donc 28-14. Les Rochelais foncent vers la victoire, un exploit en terre sud-africaine.
27, c'est deux points pour la transformation. À tout à l'heure, Mathis. Fred, tu nous appelais?
Oui, carton rouge à Auxerre contre Ajaccio pour un deuxième carton jaune pour Vidal. Il avait commis une petite faute tout à l'heure, il avait pris un carton jaune, et bien là il vient de retenir Sinayoko par le maillot sur plusieurs mètres. Le deuxième carton jaune sorti par Monsieur Ramil, c'est donc le carton rouge. Les Ajacciens sont réduits à 10 alors qu'il y aura un bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation à quelques secondes de la pause et que la JOCR met 2-0.
Ben voilà, 2-0 pour Auxerre. Alors, c'est la mi-temps aussi à Bordeaux, me semble-t-il.
Exactement. Nico. Mi-temps à Bordeaux, 0-0. Il y a eu d'énormes occasions pour les Bordelais sur la fin de cette première mi-temps. C'est un match nul plutôt équilibré, un bon 0-0 avec chaque équipe qui a eu un gros temps fort dans cette première période et qui n'a pas su concrétiser les nombreuses opportunités sur le but adverse. 0-0.
Il va y avoir, me semble-t-il, un... non, Julien, il y a eu. Alors, la réalisation est en train de nous montrer un choc tête contre tête entre un Rochelais et un Sud-Africain. Dit, ouais.
Mais bon, au début, regardez vraiment l'énorme plaquage de Georges-Henri Coulombe. Hein.
Ça se passait avant l'essai, hein. Donc s'il y a une faute du Rochelais, non?
Non, mais c'est après. L'essai
c'est après. D'accord. Ok. Mais parce que là, on voyait cette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Carton jaune, me semble-t-il, non?
Ouais, parce qu'en fait, le joueur, certainement, est en train de subir un gros plaquage de la part de son compatriote.
Ouais, Sclavi qui sort.
De son compère à droitier, Georges-Henri Coulombe. Et c'est vrai que Sclavi, touche un peu la tête, mais sans vraiment trop de menaces.
Sclavi, on a l'impression qu'il n'a pas de coup. C'est un homme qui est mis sans coup.
C'est un homme qui a beaucoup travaillé, en tout cas, pour protéger ses cervicales, c'est vrai. Que...
Ah, d'accord. Tu as un coup, toi, quand même?
Oui, bien sûr.
Pas
écoute,
énorme,
j'ai fait 18 ans de carrière et j'ai pas d'arthrose, j'ai rien. Donc,
comme un bébé, quoi.
Exactement.
La mi-temps
Auxerre, on y va.
Exactement, et la JOCR mène 2-0. C'est Chanon qui vient de se faire expulser après avoir pris un deuxième carton jaune. La JOCR déroule, la JOCR se promène littéralement sur ses 45 premières minutes. Ajaccio n'a pas frappé une seule fois au but. La JOCR mène 2-0 grâce à un doublé de Gauthier Hein, 18e et 28e, et le tout du pied gauche à chaque fois. La JOCR mène 2-0 face à Ajaccio.
Merci, à tout à l'heure Fred pour la deuxième mi-temps, mais les Auxerrois sont bien partis pour aller récupérer la tête provisoire. Alors oui, on est revenu en arrière.
Mais à coup de pain, bien sûr,
l'action se déroulait, la faute s'est déroulée avant que les Rochelais n'inscrivent l'essai. Donc l'arbitre non seulement a mis Sclavi dehors pour 10 minutes, et est revenu avant l'essai. Donc on reste à 20-14 et du coup les Rochelais sont de nouveau sous la menace des Stormers, Mathis.
Il reste 3 minutes, ils sont à 14 contre 15 et les Stormers qui ratent l'essai de peu avec un ballon manqué par l'ailier gauche sud-africain qui fonçait vers l'en-but. Oh là là, ça joue ouais, un
heureusement,
peu.
On peut compter sur la fébrilité hein, des, oui. de l'attaque des Stormers.
Heureusement, c'est vrai beaucoup de fautes de main en seconde mi-temps.
Il y avait un 3 contre 1 en bout d'aile. C'est vrai que là, si alors j'ai pas le nom, mais il me semble que c'est le Zaz, non ?
C'est ça, c'est Zaz, Loïc Zaz.
S'il avait un peu de main.
Ouais, ça passe à rien du tout. Et cette fin de match change complètement de dimension après cet essai annulé.
C'est quand même incroyable quand même. Monsieur Ridley a annulé l'essai après qu'il y ait la transformation. Il y a eu du temps, il y a eu même un temps de jeu. En fait, c'est le TMO qui a dû revenir en arrière. Ouais, ça revient loin quand même.
C'est étonnant de revenir aussi loin et surtout aussi longtemps après. C'est-à-dire, il y a même eu la transformation. Je ne sais pas si c'est vraiment. Bah,
c'est vrai qu'on on transformait vite, ça valait
voilà,
l'essai.
Justement pour entériner.
Exactement.
Le résultat,
mais maintenant, ils sont venus un peu en arrière.
Avec la vidéo.
En tout cas, c'est chaud.
Quasiment au début du match.
C'est chaud pour les Rochelais.
Parce qu'il y a 6 points d'écart, donc ils sont sous la menace des Stormers, un essai transformé et les Sud-Africains passeraient devant et forceraient les Rochelais à l'élimination
se diriger vers la Challenge Cup. Ouais.
Ouais, parce que là, 2 victoires et 2 défaites d'affilée. Adieu le titre pour la Rochelle. Donc il faut tenir encore 1 minute 30 avec cette touche en faveur des Stormers, Mathis.
Oui, c'est récupéré par les Stormers. On est vraiment juste à côté de l'ambu Rochelais. Il reste 1 minute 15. Il va falloir tenir pour les Maritimes.
Ça pousse,
ils sont tout prêts.
Est-ce que l'essai va être transformé? Ouais.
Je crois que c'est transformé. Oh là là. Ça va être très compliqué pour les Rochelais qui pourraient être éliminés déjà potentiellement de cette compétition. On va suivre la transformation. Ça fait 20 à 19 pour les Stormers, pour la Rochelle, pardon, plus qu'un petit point d'écart. C'est Venter qui marque cet essai, le Sud-Africain.
Ouais,
quelle fin de match.
Groupé pénétrant. Ouais,
la transformation. Est-ce que Libot pourrait nous rendre à la monnaie de notre pièce, c'est-à-dire louper cette transformation, parce que finalement, c'est pas non plus le meilleur des buteurs. C'est un essai qui est marqué en coin, enfin en coin, pas totalement. Espérons quand même que
C'est un
pour l'avenir rochelais
très important. C'est un coup de pied qui pourrait renvoyer la Rochelle à ses chères études et uniquement le top 14 pour la fin de la saison, parce que de défaite, eh bien c'est rédhibitoire pour essayer de se qualifier pour les phases finales. Si ça passe à côté, eh bien la Rochelle conservera ses chances de qualification. C'est donc Manny Libok, l'ouvreur sud-africain, l'ouvreur des Springboks, champion du monde à Paris il y a de ça quelques semaines, qui va se charger de taper cette transformation. Elle est complètement en coin là-bas sur le côté droit. Libok qui avait eu du mal au début de la Coupe du Monde, on s'en souvient.
Julien, il va falloir monter là.
Il avait raté tout ce qu'il avait voulu. Hein.
Si on pouvait leur faire le même coup que Colby, ouais, surtout qu'il n'est pas très profond.
On rappelle, il a manqué une pénalité dans ce match déjà à Libok. On espère qu'il va à nouveau se manquer, le Sud-Africain. Il prend quelques pas d'élan, il est très excentré sur la droite, tu l'as dit Christophe.
Le public sud-africain est en transe, tout le monde est très tendu évidemment. C'est le coup de pied de la gagne peut-être pour les Stormers, c'est le coup de pied de la honte pour les champions d'Europe en titre, La Rochelle. Manny Libok qui va s'apprêter à tirer dans quelques instants, Mathis.
Oui, il se concentre, tout le stade est debout, le DHL Stadium, 55 000 places on le rappelle. Quelques petits pas d'élan, c'est frappé, attention, et ça rentre pour Libok. La victoire des Stormers. Que c'est cruel pour les Rochelais.
Ah, c'est un gros coup de massue là, hein, pour le public Rochelais en tout cas, qui croyait certainement à son déplacement aux Stormers. Et malheureusement, je pense que l'aventure européenne, alors peut-être pas totalement foutue, mais en tout cas c'est très compromis.
Mathématiquement ils peuvent encore se qualifier, mais ce sera peu. Ils n'auront pas leur destin entre les mains, on peut dire finalement, Christophe. On rappelle qu'ils ont un déplacement important à Manchester contre les Sharks, c'est aussi ils vont recevoir Leicester à la maison, donc deux matchs très difficiles.
C'est cruel, mais bon, il fallait se mettre à l'abri plus tôt. C'est vrai que c'est cruel sur cette action, ce magnifique essai Rochelais inscrit, validé par l'arbitre, transformation passée, et finalement encore une fois un arbitrage entre la France et l'Afrique du Sud qui ne va pas.
Non, mais la faute y est, donc après, faut revenir aussi sur la globalité du match. Les Rochelais n'ont pas attaqué.
Combien de temps en arrière tu reviens?
J'ai pas la règle, donc je pourrais pas te répondre, Christophe. Mais en tout cas, si tu reviens sur le match, par contre. Ça, je l'ai bien vu, des Rochelais qui n'ont pas attaqué du tout le match, qui ont fait que défendre bien, quoi, au moment départ. Ils ne méritent pas de gagner au final.
Ils ne méritent pas de gagner. Et donc, ils s'inclinent sur la pelouse du Cap face aux Stormers, 21-20, comme on fit en quart de finale de Coupe du Monde. Décidément, ces Sud-Africains nous font beaucoup de mal. 15h54, la mi-temps sur les terrains de foot. Je vous rappelle qu'Auxerre mène 2-0 face à Ajaccio et que Bordeaux et Saint-Etienne sont à égalité 0-0.